Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité jeux vidéo et art numérique. Voici tout de suite un épisode d'avril qui vous réchauffera le cœur, je l'espère encore plus que le timide soleil printanier. Et j'ai autour de moi plein de petites chaufferettes souriantes pour accomplir à mes côtés cette mission de haute voltige. Salut tout le monde.
Salut.
Coucou Béné.
Bonjour.
Et je commence par Damariane, bonsoir.
Bonsoir Béné, bonsoir tout le monde.
À quoi tu as joué ce mois-ci?
J'ai joué à Lysara, un jeu de montagne.
Et c'est encore un city builder, je crois.
Oui.
Le troisième à la suite.
Oui, non, mais c'est Jusan qui m'a inspiré, c'est pour ça.
Ensuite, on a François.
Bonsoir, coucou tout le monde, bonjour d'ailleurs, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez.
Pardonnez François aujourd'hui qui sort des affres de la maladie.
Oui, voilà, j'ai une toute petite voix et pardonnez, enfin tu te le disais qu'on était une équipe paritaire, on n'est pas vraiment paritaire ce soir, mais plutôt les filles en force, hein, grande force ce soir.
C'est vrai.
On est à 4 contre 2.
Finalement, pas tout à fait le reflet du monde actuel.
C'est très bien.
À part de l'égalité femmes-hommes, de quoi tu vas nous parler ce soir?
Je vais vous parler de marionnettes et de maquettes en l'occurrence, parce que j'ai joué à Harold Halibut que j'attendais depuis très longtemps.
Et nous aussi. Cher Marion, bonjour.
Bonsoir.
Tu as une petite chronique pour nous aujourd'hui?
Exactement, une chronique moyenâgeuse.
Et quel sera le titre?
Inculinati.
Très bien, tu vas te faire monial copiste le temps d'une chronique, c'est ça?
Parfaitement.
Simon, salut à toi.
Guten Tag.
Ce sera quoi ta chronique du jour?
J'ai joué à Botany Manor.
Mais est-ce que tu ne serais pas en train de me copier un petit peu après Strange Horticulture, Simon?
Oh, on verra.
Aurélie, bien le bonsoir.
Guten Tag.
C'est quoi? Mais quelle est cette étrange épidémie?
C'est fou.
C'est quoi ton sujet aujourd'hui, Aurélie?
Je vais parler de Soldiers, un action RPG espagnol.
Et peut-être un très lointain héritier des Dark Souls? On verra ça ensemble tout à l'heure. Et je vous parlerai de mon côté de Stray Gods. Celles qui nous suivent sur Instagram savent que j'ai bossé dur sur cette chronique. Stay tuned, comme on dit. Thibaut est toujours là, derrière les câbles et les consoles pour nous assurer un enregistrement de qualité. Cet homme a décidément tous les talents, merci à lui. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on La Pléiade. C'est encore une fois Simon qui se dévoue en attendant le retour de Vladimir.
Concernant l'expo Insert Coin à la Monnaie de Paris dont on parlait le mois dernier, Sef22 nous précise que l'association MO5 a participé à l'événement en prêtant les bornes Computer Space, celles de Pong, de Bubble Bobble, de Paxmania et de Snowbros. Et l'asso a aussi également aidé les commissaires à construire l'expo. On leur fait des gros bisous. On continue avec Wilfried qui revient sur la séquence de l'invité. Il écrit « J'en profite pour revenir sur Jusante, auquel j'avais pu jouer à sa sortie. J'avoue être passé à côté du jeu et c'était super de pouvoir entendre Mathieu en parler. J'ai trouvé plein de qualités mais j'avoue que le cœur du jeu, qui consiste à chercher le bon chemin, m'a empêché de me laisser vraiment porter par la narration du titre. Je suis peut-être le seul car je sais que le jeu a rencontré un très bon accueil critique, nous dit-il, mais j'ai trouvé qu'il y avait deux propositions narratives et ludiques qui avaient du mal à s'accorder. » Voilà. Après, Mathieu en a beaucoup parlé. Je pense que c'était ça qui était intéressant aussi. Enfin, Josica Josette est ravie, comme à chaque émission, néanmoins. Et oui, néanmoins. Elle a un petit reproche à nous faire, et plus précisément à Marion. Je la cite. J'ai pensé à la pauvre maman de Simon en écoutant ta chronique. La quantité de jargonnage et d'anglicisme était un poil trop loin quand l'argent devient le gold, qu'on est greedy et que la fin devient le head game, sans parler de ce mot qu'il connaissait pas. Diriment, c'est là. Moi, c'est là où je pense où t'as cassé le game avec Diriment. Est-ce que tu veux te défendre, Marion, en live?
Entschuldigung. Comme on dit chez les Celtes, Diriment était un mot français et je vous laisse consulter le Larousse.
T'as tout cassé avec Diriment.
Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler, Simon?
Oui, et update de jeu, Path Blaster, dont François nous parlait dans le cadre du dernier Juste Festival, vient de sortir sur Steam. C'est une variation de Bomberman et c'est disponible pour le prix d'une petite place de ciné.
Ouais, c'est super cool, essayez ça.
Enfin, The Path Within, dont Bénédicte vous disait le plus grand bien, l'épisode 58 en novembre 2022, souvenez-vous, vient de recevoir une mise à jour secrète qui ferait le lien avec Underground Blossom, le jeu plus récent. On vous le disait, hein, que tout était lié dans le monde merveilleux de Rusty Lake. Est-ce que tu as été voir?
Alors, j'ai téléchargé la mise à jour, mais je n'y ai pas encore joué. Bien sûr, je vous ferai mes retours, chers auditeuristes.
Tout est très secret.
En même temps, il faudra qu'on refasse une partie de The Past Within. Ah, on est obligé. Sinon, parce que
ça se jouait à deux.
On avait joué ensemble.
Voilà pour moi.
Très bien, et eh bien merci Simon pour ce Previously en la Pléiade chatoyant, et je précise qu'on est friands de vos retours sur nos épisodes, donc n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, sur Discord, tout ça, suite à nos épisodes, ça nous fait plaisir, et surtout Vlad aura de la matière quand il reviendra. On continue maintenant avec une preview. Ariane a testé l'accès anticipé de Leysara Summit Kingdom et va nous parler tout de suite de Ville Montagnarde.
Je vais vous parler donc de Leysara Summit Kingdom, un jeu en accès anticipé qui est sorti le 10 avril de Quite OK Game, qui est donc en Pologne, édité par Future Friends Games, qui a édité pas mal de jeux qu'on a chroniqués ici comme What the Golf ou d'autres. Donc c'est un city builder dans des montagnes. Après le dernier podcast qu'on a fait, j'étais inspirée de trouver un jeu dans les montagnes et j'ai trouvé donc ce City Builder qui répondait à toutes mes attentes.
T'aimes bien les montagnes, c'est pas la première fois que tu nous fais un jeu.
C'est vrai, j'avais fait aussi Insurmontable qui était beaucoup plus stressant. Et donc là, c'est un City Builder inspiré du Tibet, du Népal, c'est en temps réel. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette version du jeu, c'est que c'est un développement à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, donc c'est vraiment, contrairement à tous les autres jeux, comment pouvoir développer sa ville en montant, en créant des ponts, des leviers, des systèmes de transport avec plein de bestioles très mignonnes. Donc voilà, donc en fait, l'accès anticipé est quand même assez fourni. Il propose 4 modes de jeu, dont 3 qui sont disponibles dès de suite. Donc il y a le standard, le défi et la construction libre pour ceux qui aiment le bac à sable. Donc en fait, c'est le City Builder basique qui est très inspiré de Anno. Donc pour tous ceux qui ont joué à Anno, voilà, c'est un peu les mêmes types de bâtiments, de musique d'ambiance, sauf que c'est un peu plus difficile qu'Anno et il n'y a pas vraiment des missions d'exploration avec les bateaux pour aller par exemple au Moyen-Orient ou rencontrer des pirates. Donc on a les ressources habituelles qu'on peut imaginer trouver au Tibet, donc du parfum, du cuivre, des lampes à beurre, du sel et de l'or. Et donc en fait, Leysara, c'est l'histoire d'une ville qui est dans la vallée et qui est donc en bas de toutes ces montagnes. Et un jour, elle est envahie par une brume très épaisse et soudaine qui contraint les habitants à quitter leur ville. Et donc, errant dans la forêt avec les habitants et tout le bétail, ils cherchent un endroit où survivre et décident de monter donc dans les montagnes pour échapper au brouillard. Et espèrent donc pouvoir s'installer à nouveau en attendant que ce mystérieux brouillard se dissipe. Et donc, comme la montagne dans ce pays est un lieu sacré, le but en fait de chaque colonie est de pouvoir aller jusqu'au pic de la montagne et y construire un temple pour apaiser les esprits et donc dissiper le brouillard. Mais la montagne évidemment a plein de difficultés, et donc c'est assez intéressant dans ce City Builder parce qu'on n'a pas forcément les mêmes problèmes que tous les autres jeux. Donc là, il faut gérer les avalanches et l'altitude. Donc il y a évidemment des parades et des constructions à effectuer, toujours en regardant vers le ciel et voir ce qui peut nous tomber dessus. Donc en fait, on est accompagné de 3 personnages qui vont, pendant notre construction, découper un peu notre progrès avec des petites scénettes, des petits dialogues, des petites scènes comme une espèce de cinématique assez mignonne. Donc on a un vieillard sceptique qui représente les artisans, une femme positive qui représente les habitants et qui sont un petit peu les agriculteurs de la colonie, et un vieux sage philosophique mais très gourmand qui représente les moines. Donc voilà, ce sont les 3 castes de notre société. Les paysages sont très très beaux, c'est très bien animé. Quand les bâtiments par exemple se touchent, eh bien les toits se fondent et créent en fait une même structure. Pareil pour les pâturages des bestiaux, c'est très dynamique. Et pour un jeu qui a été développé pour un petit studio, c'est leur premier jeu d'ailleurs, je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand on peut zoomer en arrière, ce qui est assez rare dans un City Builder, parce qu'on peut vraiment aller très très loin. Un peu comme dans SimCity, et on voit les montagnes derrière, on voit la brume qui bouge, les nuages, c'est comme un petit paysage asiatique, c'est vraiment très très bien fait. Ouais. Exactement. Les habitants de Leysara, évidemment, doivent être satisfaits. Nourriture, prospérité et illumination. Donc la spiritualité est très importante dans le jeu. Et donc, ce qui est sympa, c'est que on va pouvoir jouer avec des ressources qui sont typiques de la région, du poulet, du tsampa, donc c'est de la farine à base d'orge, des abeilles, du miel, et puis, et c'est surtout ce que j'adore, c'est les yaks. Donc le yak est un habitant de la Essara et de nos colonies. Il fait partie des populations qu'on peut donc développer. C'est un joueur actif en fait de la société, c'est ça, je trouvais très mignon. Donc non seulement il faut faire plaisir aux humains, mais aussi à nos petits yaks, qui sont source de divertissement, de travail, de transport et de ressources. Donc ils ont besoin d'avoir des étables pour les brosser, d'herbes pour pouvoir courir. Et c'est eux qui vont être aussi nos transports, etc., qui vont nous aider à développer la ville. Donc ça, c'était pour moi un gros plus parce que en général, on s'occupe que des humains dans un city builder, sauf si c'est un timberborn, c'est que des castors, etc. Mais là, je trouvais chouette en fait qu'on donne de l'importance aux animaux et particulièrement au yak, qu'on le mette en avant comme un vrai acteur du jeu.
Un yakteur.
Oui, pas mal du tout. Donc en fait, voilà, c'est encore un tout petit peu frustrant parce que il y a des choses à développer. Par exemple, on peut pas faire de rotation de bâtiments. Donc on se doute bien que sur le flanc d'une montagne, c'est un peu un jeu de Tetris où il faut vraiment que tout s'emboîte parfaitement parce que on joue avec des portions de terrain. Donc parfois, on passe beaucoup de temps à essayer de calculer combien de carrés fait la ligne droite et combien de bâtiments on peut placer, etc. Donc j'espère qu'ils pourront peut-être alléger un peu la logistique des placements de bâtiments. Sinon, oui François.
Moi, je voulais pas te couper, j'avais une question. Est-ce que au fur et à mesure du gameplay, tu as une zone qui a une certaine altitude et une fois que tu l'as complétée, la brume remonte et tu es obligé d'aller un peu plus haut vers l'altitude ou pas?
Non, la brume, c'est vraiment un décor en fait. C'est pour faire une petite backstory pour expliquer pourquoi tu vas dans les montagnes, mais en fait, elle ne joue pas du tout de rôle dans ton développement, sachant que ta ville, en fait, tu n'arrêtes pas de monter, de descendre. C'est-à-dire que l'altitude, donc, comme je disais, joue un rôle important. Et selon l'altitude où tu es, tu n'as pas le même biome.
Oui,
tu n'as
pas la même voilà. ressource.
Et donc, par exemple, les yaks n'aiment pas aller tout en haut, mais les chèvres, elles aiment bien. Les abeilles sont plutôt en altitude, mais par contre, les poissons, c'est plutôt vers le bas. Donc, il va falloir que tu joues un petit peu avec ces ressources, où les placer, comment les distribuer, comment tu peux faire monter du lait tout en haut de la plateforme, etc. Avec tout un réseau de transport de yaks qui est assez développé. Et puis après, avec les moines, par exemple, tu vas construire un monastère, et puis il va falloir que tu développes ton monastère, que tu mettes vraiment les petits murs du monastère. Tu as des autels à placer pour la spiritualité et pour les dons. Donc ça, c'est un peu le côté monétaire du jeu, en fait, c'est faire des appels aux dons de tes villageois. Mais tu n'as jamais, à part l'avalanche, à part tout ce qui peut tomber sur toi, tu n'as rien qui monte et qui te met la pression de monter toujours plus haut. Et évidemment, à chaque partie, là, tu débloques d'autres montagnes, d'autres bâtiments. Beaucoup d'esthétiques aussi qui sont très jolies. Et puis quand tu zoomes vraiment, tu vois tous les petits détails, les petits fanions au vent, etc. Enfin, c'est un peu comme qu'on imagine le Tibet. Donc chaque montagne a son climat, a ses risques d'avalanche plus ou moins importants. Et c'est quand même très intéressant et très varié, oui. Et très joli.
Très joli.
Voilà, oui.
Est-ce qu'à un moment, on arrive tout en haut?
Oui, c'est là où tu es censé construire à la fin ton grand temple, ton grand sanctuaire. Pour apaiser les esprits. Et puis, tu verras que certaines montagnes, par exemple, sont en forme d'énormes pattes d'ours, comme une énorme empreinte. Et donc, il y a plein de philosophies, des histoires qui sont racontées. Ce que j'aime bien dans les temps de chargement, c'est que ce sont des petits dictons asiatiques. Ça, j'aime bien aussi. Donc, voilà. Et c'est sur PC seulement.
François ?
Oui, encore, pardon. Ça a l'air d'être un jeu assez feel-good. Mais du coup, est-ce qu'il y a des moments, tu parles d'avalanche par exemple, où du coup ça se noircit un peu et où c'est pas vraiment cool, ou même l'avalanche finalement ça fond puis ils repartent comme si de rien n'était?
Alors moi, comme d'habitude, zéro contrariété, donc je joue en mode facile. Donc les avalanches, en fait, tu peux construire, tu peux mettre des scieries qui vont pousser du bois, donc qui vont ralentir les avalanches. Mais je pense qu'en mode difficile, ces scieries coûtent plus cher. Et les avalanches sont plus fréquentes et plus fortes, donc il faut que tu construises aussi des stations de déneigement. Je ne sais pas vraiment si c'est très typique du Tibet, mais bref. Et après, les difficultés aussi, c'est l'argent, parce que les choses coûtent très cher. Et c'est vrai qu'au début, tu ne comprends pas trop comment tu gagnes de l'argent dans une société tibétaine. Et c'est pas toujours très bien expliqué. Mais un ou deux tutos sur YouTube, et c'est bon, on est rodé.
C'est quand même feel good et coloré, quoi. On n'est pas, pas Frostpunk, quoi.
Non, mais c'est un peu stressant quand même. C'est pas cool comme Against the Storm ou Timberborn.
Marion,
faut faire attention.
Est-ce qu'il y a une perspective écologique dans le jeu?
Dans le côté feel good, oui, parce qu'en fait, C'est écologique parce qu'il n'y a pas de... On est en montagne, donc il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de, de vie moderne, en fait. On est un peu perché dans son, dans son univers tibétain. Après, je dirais que tu es quand même dans, dans un jeu qui exploite des ressources, qui fait du commerce avec d'autres, avec un comptoir de commerce. Donc, je pense que l'écologie, oui, elle est mentionnée, mais c'est pas du tout... C'est pas comme les autres jeux auxquels j'ai pu jouer. Là, c'était vraiment remettre le biome à son état naturel.
Moi, j'avais une question sur les créatures. Tu disais que plutôt les populations que tu accueilles, donc tu parlais des yaks, c'est la seule population non humaine.
Pour l'instant, oui.
Le reste, c'est quoi ? C'est différentes tribus nomades, différentes tribus.
Non, en fait, là, tu gères que les humains et les yaks. En fait. Donc, tu as tes trois castes d'humains. Et les yaks.
Ah, c'est ça, c'est trois castes.
Mais les yaks sont considérés comme les humains, ils ont leur petite case, ils ont leur petit. Tu vois, ils sont même dans l'onglet des humains. Voilà, c'est ça qui était assez mignon pour le coup. Et puis, alors, toutes les vignettes du jeu sont évidemment avec des têtes de yaks, et ça, c'est vraiment très, très kawaii, comme on dit au Japon.
Et toi qui es sensible au mouvement 3D et tout ça, quand tu as un peu de gêne, le fait de tourner comme ça autour de la map, ça te pose pas de problème ?
Ça va, ça va.
Avec l'altitude et tout, je trouve que c'est pas toujours facile à regarder.
Non, ça va, ça va. Le seul truc, c'est qu'ils devraient rajouter du, je sais pas comment dire en français, du strafe. Ça, ce serait quand même pas mal, parce que là, c'est que de la rotation en haut, en bas. Et j'aimerais vraiment qu'ils rajoutent la rotation des bâtiments, parce que ça serait aussi pas mal. Plutôt que de tourner à chaque fois la carte pour voir où va s'emboîter le truc, voilà, ça permettrait en fait de juste le mettre où on veut.
Et c'est une early de toute façon, donc ça
oui, exactement, bien. Exactement. Donc de toute façon, le jeu a des reviews déjà dithyrambiques sur le contenu, donc c'est un très bel accès anticipé.
Merci beaucoup Ariane pour cette découverte. Et on va maintenant enchaîner avec nos chroniques. À commencer par la mienne, je vais vous parler de Stray Gods. On ne va pas avoir de son d'intro, puisque avant de vous faire ma chronique, je voulais vous parler d'une petite mésaventure qui m'est arrivée récemment. Je vous pose le contexte. Je suis en train de préparer tranquillement l'épisode de ce mois-ci chez moi et j'entends frapper à ma porte. Je vais ouvrir et là, il y a une meuf qui me tombe dans les bras. Alors, ça aurait pu être plutôt positif, surtout qu'elle était très très jolie. Mais le côté négatif de tout ça, c'est qu'elle est en train de se vider de son sang à vitesse grand V. Je la traîne comme je peux jusqu'à mon canapé. Je suis complètement affolée, elle est encore consciente, elle marmonne mon prénom et du coup je la reconnais. En fait, c'est Calliope, qui est une fille rencontrée quelques jours plus tôt à une soirée ukulélé. Elle chantait super bien, on avait un peu sympathisé, mais ça n'explique pas du tout ce qu'elle fait là, avec un trou sanguinolent dans le bide qui plus est. Elle me regarde dans les yeux en murmurant « Désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça » et bim, dans un dernier souffle, elle crève sur mon parquet. Et vous savez quoi ? Ce n'est même pas la partie la plus dingue de cette histoire, donc accrochez-vous bien à vos bretelles, même si Vlad n'est pas là. Il y a une petite lumière jaune qui sort ensuite de sa bouche et qui rentre dans la mienne. Alors, c'est pas une métaphore de hippie pour dire que je lui ai fait du bouche à bouche, non. Je vous le dis, c'était un genre de boule d'énergie qui m'est littéralement rentrée dedans. Et là, je vois 36 chandelles, ou plutôt un bon paquet d'éclairs, et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ? Je n'ai pas le temps de me remettre de mes émotions parce qu'aussitôt, un drôle de Gus entre à son tour dans mon appartement, par la porte que j'avais laissée ouverte, mais qui n'était plus vraiment ma porte. C'était devenu un tourbillon doré, du genre que vous pouvez fabriquer, vous savez, quand vous êtes enfant, en mélangeant plein de paillettes et de l'eau. Donc imaginez ça, mais à l'échelle d'une porte. Bref, le Gus, ou la Gus, je ne sais pas trop, me dit qu'elle s'appelle Hermès et qu'il est temps que je l'aie à suivre par ce portail, que le chorus m'attend. Moi, j'ai du sang plein les mains, j'ai une fille morte à mes pieds. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, j'ai d'autres priorités que de sauter dans un tourbillon de paillettes derrière quelqu'un qui a le même nom qu'une marque de sac à main. Mais on ne me laisse pas vraiment le choix et je me retrouve bientôt entraînée, malgré moi, un peu plus loin dans cette folie. Je suis Hermès, à travers le portail, et je me retrouve dans une pièce sombre, déserte, avec une assiette de cookies posée sur un bureau. Hermès a disparu. Je reste seule un long moment, en résistant à la tentation de prendre un cookie pour apaiser mon angoisse avec du sucre. Puis quatre nouveaux zozos se ramènent dans la pièce. Ils m'expliquent très posément qu'ils sont des dieux, ou plutôt, comme ils s'appellent, des idoles, et que la meuf qui m'a clamsé dans les bras était l'une d'entre eux, qu'elle m'a filé son pouvoir, qu'il me suspecte fortement de l'avoir buté et que, par conséquent, ma vie à moi aussi va s'achever très rapidement. J'imagine que vous êtes d'accord, ça fait beaucoup à encaisser. Je sens alors la colère et la confusion grandir en moi
et quelque chose d'autre que je n'arrive pas vraiment à déterminer.
Qu'entends-je ? Quis-je ? Quelles sont donc ces falaises ?
Relax, chill, prends un cookie à l'aise.
Merci, je passe mon tour pour vos biscuits pourris. Ce dont j'ai besoin, c'est tranquillité d'esprit. Explique, développe, laisse tomber les accusations. Arrête les mensonges, les manipulations.
Désolé, pas désolé, mais on ne t'a pas menti. On est tous des dieux et maintenant toi aussi. T'as les pouvoirs d'une muse et ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, t'as pas le droit à la vie éternelle. Parce qu'on a voté pour t'exécuter, tu comprends.
Je comprends rien du tout. Arrête donc tes salades. J'écrivais tranquillement ma chronique, la Pléiade. Quand une prétendue muse pointe le bout de son nez et répand ses entrailles le long de mon canapé.
Ça fait quand même de toi la coupable idéale.
Qu'entends-je ? Quis-je ? Quelles sont là ces fadaises ?
C'est bon, calme-toi, vas-y, prends donc une chaise.
Ce que je vais prendre, mon gars, c'est mes clics et mes claques. Je suis innocente, vous êtes fous dans cette baraque. Tais-toi, oublie, laisse tomber les accusations. Arrête les mensonges, les manipulations.
On peut à la rigueur t'accorder un sursis. Trop long qui t'a fait ça, tu resteras en vie. Une semaine, ça te va ? Vas-y. Mène ton enquête.
On a passé un step là, quoi.
Ça vaudra toujours mieux qu'une balle dans la tête.
Ok, où est-ce qu'on achète le disque ?
Et voilà. J'ai donc une semaine pour prouver mon innocence, trouver qui a tué Calliope et surtout comprendre ce qui se passe. Sauf qu'en fait, toute cette histoire, ce n'est pas la mienne. Et non, c'est l'histoire de Grace, l'héroïne du jeu Stray Gods dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et maintenant, on peut mettre l'intro.
On a eu peur.
Grace, you know that you're lost now. You've been given powers you don't understand.
You say you didn't kill Calliope. You have one week to prove it.
Hormis le fait que Grace n'est pas une chroniqueuse de la Pléiade, mais la chanteuse d'un groupe de rock amateur, vous avez, grâce à ma petite intro, l'essentiel de l'histoire. Un beau jour, la muse Calliope meurt entre ses bras, lui lègue son pouvoir et Grace est suspectée du meurtre par les autres dieux. Elle doit alors mener l'enquête pour prouver son innocence. Cette enquête va l'amener à rencontrer de nombreux dieux et déesses qui arpentent désormais le monde mortel et s'appellent les idoles. Malgré leur immortalité relative, ils s'incarnent régulièrement dans de nouveaux mortels en leur confiant leurs souvenirs et leurs pouvoirs sous la forme d'un eidolon, la fameuse petite boule d'énergie absorbée par Grace au début de l'histoire. Les idoles rencontrées ont donc des looks très modernes, à base d'undercuts, de piercings, de tatouages, de colorations, à part Athéna qui garde un goût marqué pour les toges et les sandales. Et ils sont tous extrêmement sexy. C'était Baldur's Gate 3 all over again et j'avais envie de coucher avec au moins la moitié des personnages rencontrés. Et ma préférée, c'était bien sûr Perséphone, l'ex-reine des enfers. Par contre, les idoles ne sont pas seulement belles, elles sont aussi extrêmement narcissiques et manipulatrices. Et Grace va avoir bien du mal à mener son enquête au milieu de tous ces égos surdimensionnés, traumatisés par leur exode de l'Olympe, des millénaires de souvenirs trop lourds à porter et une vulnérabilité grandissante. On va la séduire, on va lui mentir, on va l'attaquer, l'envoyer dans les pires traquenards, mais elle a un atout dans sa manche, le pouvoir transmis par Calliope, la musique. Donc vous avez pu avoir un petit extrait au début de cette chronique, merci Thibaut. Globalement, Grace peut maintenant transformer le monde en karaoké géant. Sauf qu'au lieu de reprendre Sardou ivre avec la cravate sur la tête, les personnes qu'elle arrive à englober dans son champ d'action se mettent à révéler leurs secrets, leurs failles, leurs vulnérabilités, le tout bien rimé et bien rythmé. Quelques chansons bien placées vont pouvoir empêcher un suicide, réconcilier des ennemis, faire émerger une idylle, et à côté de ça, Sardou peut aller se rhabiller. Grace est aussi aidée par sa meilleure amie, Freddy, qui en connaît heureusement un peu plus qu'elle sur la mythologie et qui ne manque pas de cran. Les idoles vont temporairement lui filer des coups de main, mais seulement si ça sert leurs propres intérêts. Tout en essayant de résoudre l'enquête qui peut lui sauver la vie, Grace doit aussi apprendre à maîtriser ses pouvoirs et comprendre la complexe organisation du monde divin dont elle fait désormais partie. Autant dire qu'elle ne va pas vraiment s'ennuyer. Elle va naviguer entre clubs clandestins et bibliothèques sacrées, squats mystiques et royaumes des morts, avoir des échanges piquants avec Aphrodite, Apollon, Athéna, Eros, Perséphone, Méduse, Hécate ou encore Pan, et se frayer un chemin au milieu de ce beau monde en chantant. On retrouve dans Stray Gods une ambiance à la American Gods de Neil Gaiman, avec des déesses et des dieux déchus qui vivotent avec amertume en marge d'une humanité qu'ils méprisent un peu, mais avec un vernis plus moderne, plus stylisé. Le messager des dieux Hermès est non-genré. Perséphone ne règne plus sur les enfers, mais sur une boîte de nuit appelée l'Underworld. L'oracle est une geek qui trouve Google plus utile que la lecture dans les feuilles de thé. Le tout avec des graphismes très chouettes et une bande-son à tomber par terre, ou plutôt trois bandes-son. Puisque Grace a régulièrement le choix d'interagir avec ses interlocuteurs de trois façons. Charmeuse, intelligente ou agressive, je vous laisse choisir celle que j'ai plébiscitée. Ce sont des options disponibles dans les dialogues, mais aussi dans les chansons, et qui vont diriger les séquences musicales vers des atmosphères plus ou moins rock ou pop ou rap, selon les choix opérés. La BO de Stray Gods est donc disponible en version verte, charmeuse, bleue intelligente, rouge agressive, ou Panthéon, avec toutes les options, plus des musiques additionnelles. Ce petit tour de force est signé Austin Wintory, et c'est vraiment l'un des gros points forts du jeu. Et pour vous détailler encore un peu plus la chose, il faut savoir que pendant chaque chanson, on n'a pas un seul choix, on en a plusieurs qui permettent de la réorienter dans l'une de ces trois directions. Et les décisions prises dans l'histoire un peu plus tôt ont aussi une influence sur la chanson. Donc techniquement, il n'existe même pas que trois versions d'une même chanson, mais des dizaines. J'ai regardé une vidéo d'Austin Wintory qui parlait de la chanson la plus complexe du jeu, The Trial, le procès, qui arrive quasi en fin de partie. Elle comporte plein de variables, puisqu'on a les alliés qu'on s'est fait tout au long du chemin, le type de décision majoritaire qu'on a pris durant la partie. Au final, il faudrait, pour avoir toutes les variables de cette chanson, jouer des centaines et des centaines de parties. Je n'ai pas donné beaucoup de précisions sur le reste du gameplay. C'est un visual novel, assez figé lors des dialogues, avec un peu plus d'animation lors des chansons. Au début, j'ai trouvé les conversations plutôt longues, mais finalement, on s'y fait. Ça contribue à donner de la profondeur aux différents personnages. J'avoue que ce qui n'a pas aidé au début, c'est que l'audio description s'était activée toute seule. Et j'ai donc eu droit à des super scènes telles que « Calliope meurt. Il y a du sang. Une boule jaune s'élève dans les airs. Elle entre dans la bouche de Grace. Les yeux de Grace deviennent jaunes. » Donc, heureusement que j'ai réussi à changer les réglages parce que ce jeu aurait été très très long. Mais dans l'absolu, je salue le fait qu'il y ait une audio description disponible. Par contre, je ne sais pas comment ils gèrent les choix pendant les chansons, parce que c'est des choix timés, donc bref, ça doit être un peu compliqué. Je pense vous avoir bien parlé des mécaniques du jeu. Maintenant, voilà un peu plus sur mon avis. J'ai adoré Stray Gods. J'ai eu un peu de mal au début. Je ne suis pas toujours hyper fan des visual novels. Je trouve ça un peu chiant. Les premières scènes avec les dieux étaient un peu clichés. Mais les personnalités hyper charismatiques des différents protagonistes, la qualité des chansons, les enjeux narratifs qui vont croissant, et puis bon, soyons honnêtes, le fait que Perséphone hante maintenant mes jours et mes nuits, tout ça a contribué à mon amour absolu pour ce jeu un peu imparfait mais très émouvant, au point que j'ai presque envie d'y rejouer immédiatement. D'ailleurs, allez, je vais arrêter là ma chronique parce que j'ai envie que cet épisode se termine plus vite, comme ça je vais retrouver Perséphone et on va aller se faire un karaoké en enfer. Je vous donne juste avant ça les infos de base. Donc Stray Gods, c'est disponible sur Switch et PC, ça dure 5 heures environ et il figure déjà en bonne place de mon Panthéon des jeux 2024. Panthéon, vous l'avez ? Allez, je vous laisse là-dessus. François.
Ou Ariane, vas-y.
Alors oui, j'avais une question un peu technique, puisque c'est un jeu vidéo chantant, est-ce qu'il y a des voix de chanteurs connus ?
Alors, j'ai regardé vite fait les crédits. J'ai pas regardé ce qu'avaient fait les autres chanteurs, mais moi aucun nom ne me disait quoi que ce soit. Voilà. Donc j'avais l'impression de reconnaître certaines voix pendant le jeu, mais pas du tout. Moi, ils m'étaient pas familiers, mais peut-être qu'ils le seront pour vous. Sachant que c'est intéressant parce que il y a toute une partie du casting qui a fait des spectacles pour le jeu, qui a fait des concerts où ils chantaient en live certaines des chansons les plus connues. Alors j'avais commencé à regarder, et en fait pour moi ça a été une très mauvaise idée parce que ça a mis d'autres visages sur les voix du jeu, qui ne sont pas forcément les visages des protagonistes. Donc, ça m'a un peu sorti du truc, donc je n'ai pas regardé. Mais j'ai trouvé l'idée très sympa d'avoir eu comme ça des événements live. François, ta question.
Je voulais juste rappeler à nos auditeurs ou ceux qui cherchent qu'Austin Winteris, c'était un compositeur qui avait été notamment connu pour la musique du jeu Journey, et que moi j'avais remarqué sur un jeu de Tales of Tales dont j'avais parlé, je crois ici, qui s'appelait Sunset. Et bref, je trouve que c'est un compositeur absolument incroyable. Je sais pas si t'as pu jouer à Chorus, qui était leur jeu précédent, si t'as jamais été dit, mais bon, c'est aussi un jeu musical.
Aussi lié comme ça à un panthéon divin ou non, pas du tout?
Il y a des créatures fantastiques, mais je crois pas que ça soit lié directement à la mythologie grecque.
Marion?
Non, je te l'avais dit, c'est un jeu auquel j'avais hésité à jouer parce que je trouvais qu'il avait l'air ultra stylé. Et j'avais lu qu'il y avait pas mal de joueurs qui se plaignaient du fait que sur les chansons, ils s'ennuyaient un peu, ou qu'à part quelques chansons, c'était pas si bien fait que ça. Et c'est ce qui m'avait fait hésiter. Et du coup, je voulais avoir ton sentiment là-dessus.
Alors, en fait, je pense vraiment que ça dépend des options qui sont prises. Moi, j'avoue que, bon, je vous ai dit tout à l'heure, devinez la couleur que j'ai choisie. J'ai pris l'option majoritairement agressive dans les chansons, et ça faisait des chansons assez punchy. Mais c'est vrai que j'ai regardé par curiosité deux, trois autres versions. Des chansons plutôt en mode charmeur ou intelligent, et elles sont plus lentes. Elles sont effectivement, je pense, un peu moins intéressantes si on n'aime pas les chansons de ce type-là. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois chansons qui sont passables, mais de fait, on peut les passer. Si on a envie, moi, je les ai laissées parce que je trouvais ça rigolo. Mais voilà, ce qui est amusant, c'est que parfois, il y a des chansons avec des personnages qui ne chantent pas forcément très bien. Il y a deux, trois. Alors, c'est pas les...
Ça arrive au meilleur.
Ce n'est pas du tout par rapport à notre super introduction avec Thibaut qui était, je trouve, une prestation de qualité. Mais
n'était pas vous que je visais.
Il y a un personnage, notamment un Minotaure, qui chante assez mal, mais ça fait partie de son personnage et c'est assez rigolo aussi d'y assister. Et je précise, du coup, vu qu'on parlait d'Austin Wintory, que j'ai regardé quelques vidéos sur son travail sur le jeu. Et même si vous ne jouez pas au jeu, je pense que ça peut être intéressant d'aller le voir parce que c'est un peu ouf, il montre des diagrammes de toutes les possibilités qu'il a dû prévoir dans la construction des chansons avec des arbres aux multiples ramifications. Donc moi, je vous encourage à aller voir ça, c'est très intéressant. Et dernière anecdote, avec le co-créateur du jeu, ils ont eu l'idée de faire des jeux musicaux en parlant ensemble de l'épisode musical de Buffy. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil pour Ariane.
J'ai pensé qu'il était le meilleur épisode. Hein.
Oui,
et j'y ai pensé
que
tout
je
de
n'ai
suite.
Pas vu encore, donc pas de spoil.
Et j'ai une autre anecdote à rajouter, parce que je viens de voir donc vite fait là, les voix de Sreggods, et donc celle qui fait Grace, ça s'appelle Laura Bailey, et attention, elle a fait beaucoup de jeux vidéo, et c'est la voix de Jaina Prunemore dans World of Warcraft. Voilà.
Oh,
et voilà.
Tu dois jouer maintenant à ce jeu.
Oui, voilà. Je savais que ça allait vous emboucher un coin.
Eh bien, maintenant, François, c'est à toi. Tu vas nous parler d'une jolie tranche de vie en pâte à modeler.
Alors, Harold Halibut, c'est pas de la pâte à modeler. Je vais y revenir. C'est plein de matériaux, mais c'est pas de la pâte à modeler. C'est un jeu qui est sorti le 16 avril de cette année. C'est le premier jeu du studio allemand Slow Bros, qui est situé à Cologne. C'est dispo sur PC et Next Gen. En fait, on suit donc Harold, qui est un laborantin, un concierge et un homme à tout faire. Un peu lunaire et simplet, qui travaille pour le professeur de la ville, vaisseau Fedora 1. Ce vaisseau, en fait, c'est une sorte d'arche de Noé qui a été envoyé par l'humanité aux confins de la galaxie au moment de la guerre froide. En fait, les Terriens pensaient arriver à la fin du monde, ils se sont pris un gros coup de flip. Ils ont pris les devants en envoyant des colons dans l'espace en quête d'un monde meilleur. Manque de bol, de déception, en exoterre foireuse et inhabitable, le vaisseau s'est lamentablement écrasé dans l'océan d'une petite planète inconnue, dans un système inconnu. Et c'est là, depuis 50 ans, que sa peuplade, tranquille, continue sa petite vie, principalement gérée par la société toute haut, responsable de la gestion de la cité, des tubulaires de communication et surtout du bal de fin d'année. Depuis le temps du voyage, de leurs explorations infructueuses et puis de ce crash, aucun personnage en fait ne connaît vraiment la Terre. Ils sont tous nés dans l'espace ou sous l'eau. Ils savent pas vraiment ce que sont des papillons par exemple, ou ils en gardent un souvenir confus en s'échangeant des livres extrêmement intellectuels, des reliques comme on s'échangerait des romans à l'eau de rose, tout en y prenant pas grand chose pour la plupart d'ailleurs. Et nous, on va faire progresser Harold dans cette histoire que je vais pas vous raconter parce que ça serait vous divulgâcher l'ensemble de l'intérêt du jeu. Celui-ci, il est quand même simple, il est gentil, mais il est ignoré de tous. Il a envie de plus. Il se questionne sans cesse et reste un parfait anti-héros dans son monde bizarre. Quelque part entre Thunderbirds, Wes Anderson, immanquable, on pense énormément au plan de coupe, notamment dans le film La vie aquatique, ou encore le jeu Stacking de Double Fine et sa galerie de personnages drôles et loufoques. Il y a énormément d'humour très fin et très britannique, ce qui est assez bizarre pour des Allemands, et c'est délicieusement absurde tout du long. On suit donc l'aventure comme un film interactif, mélangé de petites phases de point and click et de réflexion, porté avant tout par la qualité de la mise en scène et des visuels qui est limite historique. C'est impossible de pas vous parler de la DA de ce jeu. Harold Halibut, c'est 10 ans de développement, soit presque le même temps que la production d'un long métrage d'animation. Il est entièrement fait d'objets tangibles, donc pas en pâte à modeler. Ils ont fait ça en argile, en bois, en tissu, ils ont créé des maquettes. Le jeu n'est pas en stop motion pour autant. En fait, ils ont recréé des maquettes au 1/10 pour la plupart, dans un énorme studio, et ils ont fait de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'ils ont transformé ça en 3D pour que ça puisse réagir au mouvement des joysticks, etc., recomposer des textures, des objets qu'on puisse manipuler. Ça donne un charme absolument exquis, étrange et rarissime, en fait, quasiment du jamais vu, qui donne un énorme attrait au jeu. Par exemple, dès le début du jeu, il y a un projecteur qui affiche l'image d'un avatar sur un bout de carton de bois. Vous voyez, qui est un personnage qui est en carton. Et son image, en fait, c'est un projecteur qui porte l'image du projecteur sur le carton pour faire comme si c'était un avatar. C'est une espèce de groom de service qui vous dit bonjour, avec lequel on peut interagir. Et quand on déplace la marionnette, donc en tout cas le personnage, et qu'on se met entre le projecteur et le carton, en fait ça nous projette dans le dos. C'est tout bête, mais c'est des effets qui sont très rares et très 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 photoréalistes. Je crois pas que j'avais déjà vu ce genre de petits gimmicks. Donc voilà, tout est lié au détail et à la proximité. La musique, moi, m'a fait penser à celle de la série OVNI, donc de Tilassine. C'est pour ça que je pensais que ça te plairait, Béné. Et puis petit à petit, les quêtes s'enchaînent pour faire progresser l'histoire. Malheureusement, pas toujours au meilleur rythme. Les dialogues sont vraiment bien écrits. Ils sont drôles, mais parfois un peu longuets, et l'histoire peine parfois un peu à avancer. Et surtout des allers-retours, beaucoup d'allers-retours, encore des allers-retours. Parfois on fait même des actions, on mène des quêtes qui se révèlent sans aucune efficacité, alors que c'est censé être drôle, ça devient un peu frustrant. On reçoit les messages sur notre beeper, une sorte de beeper un peu archaïque, et en même temps on est censé distribuer des messages aux gens, donc c'est un petit peu chelou. Puis on reçoit les messages un peu comme dans GTA, vous voyez, dès que l'émission se termine. Donc au final on se retrouve le joueur à tout faire du jeu. Et ça m'a paru une sacrée mise en abîme, en fait. C'est très linéaire, moi ça m'a beaucoup plu, mais je dois vous prévenir que ça pourrait en agacer certains, surtout ceux qui cherchent un gameplay, quoi. On est vraiment sur autre chose. Il y a un parti pris un peu technique aussi, qui fait que quand on coupe les dialogues, plutôt que de faire du cut de scène, en fait ça accélère la scène sans qu'il y ait de son. Ça nous permet de voir la fin des animations. Il paraît que c'est quelque chose de courant. Ben, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de choses. Ça sera à vous de voir. Il y a un zoom aussi qui est très important, puisque on a envie de se rapprocher de tous ces décors, de toutes ces matières qui ont été employées. Mais là aussi, j'étais un petit peu étonné, c'est qu'une fois qu'on active le zoom, on peut pas bouger. On peut pas bouger la caméra, on peut pas bouger les personnages, donc en fait on peut pas profiter du jeu rapproché. On peut faire qu'un zoom sur une scène un petit peu arrêtée, et je sais pas pourquoi ils ont eu cette contrainte technique, ou si c'est quelque chose qui évoluera dans le temps, par exemple vis-à-vis d'un patch, je l'espère. Au chapitre des non-réjouissances, il y a aussi aucune possibilité de revoir un dialogue, alors que le jeu est ultra ultra verbeux, et si on en a manqué, c'est un petit peu embêtant. À l'inverse, on a des séquences qu'on peut pas accélérer, parce qu'heureusement des fois on a envie d'un peu de passer les dialogues, vu que ça parle tout le temps, et ça peut pas être accéléré des fois, c'est un peu chiant. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas un jeu sans défaut, mais c'est un jeu beaucoup plus à ambiance, avec une histoire qui gagne probablement à se jouer par des petites sessions plutôt qu'une énorme session comme moi je l'ai fait sur 2 jours. C'est un film interactif beaucoup plus plaisant qu'un jeu vidéo, même si j'aurais cru, moi, et j'aurais probablement aimé encore plus sentir les efforts de création tangible qui ont été faits derrière, parce que bizarrement, on s'y fait assez rapidement au visuel et on en vient presque à oublier la proximité de la matière. J'entends par là qu'il y a des jeux, par exemple le dernier Mario sur Switch, donc Mario Odyssey, où il y a des détails comme ça sur des textures, des papiers, des petits tissus, qui, bien qu'étant tout numérique, font ce boulot de nous rappeler à la matière, etc. Alors que eux, en ayant scanné des vrais matériaux, du carton, du papier, du tissu, et parfois s'en éloignent. ça m'a étonné. Ceci étant, le reste de la direction artistique, l'approche de l'époque, toutes les petites machines, les vidéos, les clips et tout, qui sont, enfin, c'est incroyable. Si comme moi, vous souhaitez y plonger de bonne heure, vous ferez du ski au fond d'un océan inconnu, vous apprendrez à parler à un alien au travers d'un livre pour enfants, ou vous finirez par regarder des séries turques à la télé avec un copain en peignoir. C'est vraiment jubilatoire. C'est autour de 35€. Il y a une petite promo en ce moment à 29€. Et il est aussi dispo sur le Game Pass. C'est une bonne dizaine d'heures pour le terminer. Et là, les auteurs que j'ai suivis, parce qu'évidemment, ils mettent en place des vidéos explicatives de ce process tout à fait particulier. Ils parlent de réaliser une exposition qui mélangerait la présentation de toutes les maquettes du jeu dans un espace, de la musique du jeu en live et puis le jeu en lui-même. Donc voilà. Oui, Ariane.
C'est une impression, en fait, en regardant certaines images, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraste dans ce jeu. Parce que là, j'en vois déjà trois. Je vois que c'est un jeu qui se veut un peu moderne, mais qui a un look vieux années 70. C'est très réaliste, mais à la fois, ce sont des marionnettes. C'est dans l'espace, mais j'ai l'impression que dans les SNS, c'est que des petits huis clos, en fait, des petites pièces, des petits coins, etc. Et donc, je trouve ça assez génial, en fait, qu'ils puissent à chaque fois avoir deux opposés dans un même jeu.
Oui, je ne sais pas trop comment répondre. C'est plus une remarque qu'une question.
Oui.
Mais tu as raison. Et c'est clair que c'est un huis clos. C'est un petit théâtre. Tout à fait, j'allais dire préhensible. Je ne sais même pas si c'est français. Mais en tout cas, on peut vraiment l'avoir dans nos mains. On n'est pas perdu dans ce monde-là. Après, je vais pas. Il y a différentes phases. Il y a différents moments qui sont des sortes d'épiphanies qui sont aussi intéressantes. En tout cas, c'est vraiment un univers hallucinant qui a été bâti autour de deux personnes principalement, que sont Onat et Kim Oglu et Ole Tillman, qui sont les deux principaux créateurs, et qui ont porté ça comme on porte le projet d'une partie de sa vie, clairement.
J'ai trouvé, ça me fait penser à une maison de poupée, en fait. Tu sais, que tu coupes en deux et puis il y a toutes les pièces et puis tu fais monter, descendre tes Barbie, etc. Et ça m'a vraiment rappelé un petit peu ça. C'est vrai que j'aime bien, en fait, la DA.
Ouais. Pardon.
Non, oui. J'allais dire que Marion avait une question. Mais...
Ah, Marion, je t'écoute.
Ah non, moi aussi, je fais comme les mecs en conférence. C'est pas tant une question qu'une remarque. Tu parlais d'un jeu à ambiance et pendant qu'on enregistre, on a un gameplay qui se joue devant nos yeux. Et je voulais dire que j'étais très, très fan de la manière dont la lumière est travaillée dans les graphismes et la manière dont elle-même travaille les couleurs du jeu. Voilà.
Alors, tu as raison de le souligner. Je suis pas assez revenu dessus. Je pense que moi aussi, c'est un des aspects qui m'a le plus séduit. C'est l'aspect sur les lumières. D'ailleurs, j'ai toujours pas bien compris comment ils ont fabriqué ça. Quand on voit les maquettes, par exemple, il y a des bouts qui sont manquants, qu'ils ont rajoutés en 3D. Et le final est saisissant. Parce que comme c'est sous l'eau, il y a beaucoup de choses au travers de vitres, de transparence, de l'océan, de poissons, de potions chimiques, etc. Même sur la minéralité, il y a un travail sur la minéralité, les microscopes qui est super intéressant. Et tout est fait de briques et de brocs, comme un film d'animation en volume, quoi.
C'est à la fois, en fait, c'est un contraste, comme disait Ariane, c'est à la fois sombre et très lumineux, et on voit très bien. Et on voit qu'il y a vraiment un travail sur la manière dont la lumière interagit avec les couleurs. Je ne sais pas comment le dire. Il y a peut-être une manière plus technique de le dire, mais je ne sais pas comment
le
dire.
Non, moi, peut-être. Alors, c'est bizarre, je ne sais pas du tout si ce mot conviendrait à tout le monde, mais j'ai trouvé à ce jeu une forme d'innocence, en fait, à la fois probablement dans sa manière d'être créé, quelque chose qui vient des créateurs eux-mêmes, dans le process qu'ils ont suivi de suivre, pour ne pas, par exemple, ça aurait très bien pu être une série animée, ce jeu, ou même un film. Ils ont décidé d'en faire un jeu, d'accorder une forme de liberté et d'immersion à inviter les gens à se plonger dans cet univers-là. Et je pense que c'est pas anodin. Et ce qui en ressort, c'est ça. C'est une forme d'obscurité qui est nappée comme ça d'une forme de très jolie lumière, de très jolie gentillesse. Enfin, c'est vraiment la bienveillance même, ce mec. Et évidemment, comme tous les personnages bienveillants, il est entouré de gens qui, eux, sont malveillants, qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts égoïstes. Et voilà. C'est un très joyeux jeu. Pas forcément celui auquel je m'attendais, mais on peut que se féliciter de voir des jeux comme ça arriver après autant de temps. Il y a deux, trois autres jeux qui arrivent un peu dans le même délire. Là, je tiens toujours une licence critique sur tous les sujets, vous savez, notamment Vocabulantis, que j'attends avec la même impatience.
Eh ben, merci beaucoup, François. Marion, tu vas reprendre la parole. C'est à toi. Tu vas nous emmener dans les belles pages calligraphiées d'Inculinati.
Voilà, je pense que je suis au moins au niveau de Stray Gods avec ça. C'était le cadeau si vous êtes en recherche d'une sonnerie de téléphone quand je vous appelle. Servez-vous. Alors, cette chanson, en vrai, est chantée par Hildegard von Bingen, son vrai nom de scène. Et contrairement peut-être à moi, non, je ne sais pas. En tout cas, elle chante très bien. Ça s'appelle Beasts of Yore, les bêtes d'autrefois. Je ne vais pas faire trop d'anglicisme, mais je ferai peut-être des, je ne sais pas comment on dit, des médiévalistes. Enfin bon, on verra, peut-être. Et donc, cette Hildegard von Bingen est spécialisée dans le bardcore, mot que j'ai découvert à l'occasion, et qui signifie en français que ses chansons sonnent tout un peu comme si elles étaient interprétées par un barde du temps d'antan. C'est une assez longue périphrase, là où en anglais n'a qu'un seul mot, comme quoi il a des fois des avantages. Et si j'ai poussé la chansonnette, c'est pas uniquement pour profiter de la captivité de votre équipe préférée de chroniqueuris et tester mes talents de troubadour, je sais pas s'il y a un féminin, peut-être troubadrice, talent que je vous permettrai donc pas de remettre en cause, mais merci quand même de m'avoir laissé faire. Mais aussi parce que ce premier couplet et ce refrain constituent à eux deux un bon synopsis du jeu. Si vos compétences en anglais et en latin, parce qu'il y avait des deux, je ne sais pas si on entendait bien, laissent à désirer, et c'est pour ça qu'il faut prendre l'option au collège, je vous la refais sans la cappella et avec une traduction libre. Sais-tu manier la plume avec talent ? L'encre sera ton testament vivant. Laisse ta marque sur la page et de tes exploits, tu rempliras le grand livre. Ici, la plume est toute puissante si tu cherches la gloire. Inculinati, un maître puissant, un soldat bestial, artistiquement. Je vais ajouter un peu de contexte à ces quelques vers. Au Moyen-Âge, quand les moines copistes s'ennuyaient devant leur ouvrage, il leur arrivait de glisser des petits mots ou des enluminures en marge des manuscrits. On peut ainsi trouver, à côté de textes très sérieux, des petites mains pour souligner des passages importants, des annotations style « j'ai faim »,« je m'ennuie », des jeux de mots, ou encore des dessins représentant des animaux communs ou fantastiques, bataillant, priant, jouant de la musique ou autre occupation anthropomorphique. Ces petits addendums, offenses pour certains, offrandes pour d'autres, s'appelaient des marginalia, s'appellent toujours des marginalia, ou encore des drôleries, parce qu'en général, elles se voulaient drôles. Et figurez-vous que ces petites oboles ont traversé les siècles jusqu'à capter l'attention de l'artiste Dorota Alika et de 5 étudiants polonais en jeux vidéo qui cherchaient un projet de fin d'études et se sont dit que ce serait une chouette idée que de développer un jeu qui se déroulerait dans une configuration de ce type, avec des batailles d'animaux rigolotes sur des manuscrits anciens. Et c'est comme ça qu'est né le studio Yaza Games et le concept du jeu Inculinati, jeu de mots entre ink, l'encre en anglais, et l'organisation secrète Illuminati, l'idée étant de faire revivre dans le jeu une société secrète d'artistes combattants, oubliée par les historiens et capable de dessiner des bêtes qui prendraient vie et s'affronteraient sur des parchemins. Et toutes les marginalia médiévales sur lesquelles on peut tomber aujourd'hui dans les vieux manuscrits seraient des traces de leur combat passé. Concrètement, c'est un jeu de stratégie en 2D au tour par tour, un peu comme un jeu d'échecs, je pense. On incarne un maître Inculinati représenté sur parchemin, qui est notre champ de bataille, donc par un petit avatar qui s'appelle Inculinati et qui a le pouvoir de convoquer sur le papier une myriade d'animaux, réels ou pas, qui prennent vie grâce à l'encre de vie, qui est notre ressource dans le jeu, et ces animaux peuvent combattre les invocations de l'Inculinati adverse. Donc en fait, c'est vraiment une mise en abîme, on a deux niveaux de jeu. Il y a nous, et c'est vraiment, on est vraiment pas une des pièces de parchemin, mais on est un joueur, on peut réaliser un certain nombre d'actions avec notre main, que le jeu appelle des actions de main, type pousser, soigner, ou donner des gros coups de doigt sur les animaux qu'on n'aime pas, ou plutôt les animaux ennemis. Donc on casse totalement le quatrième mur et les animations de ces actions de main sont géniales.
Ah ouais.
Vraiment. Et de l'autre côté, donc on a nos pièces à nous qui sont nos bébêtes, notre mini Inculinati qui est un peu comme un roi dans un jeu d'échecs et qu'il faut à tout prix protéger. Or, ce coquin peut mourir de beaucoup de manières différentes. Il peut tomber, brûler, se faire dévorer par des crocs infernaux, etc. Donc au début, on commence par un Inculinati qui ressemble un peu à une sorte de Yoda jovial, mais au fil du jeu, plusieurs Inculinati tu débloqueras, qui ont chacun leur propre style de combat et sont en général inspirés de personnages familiers. Vous aurez maille à partir avec Dante, qui revient des enfers d'assez mauvaise humeur, Francis, alias Saint-François d'Assise, saint patron des animaux et de l'environnement, et son armée de petits pigeons roucoulants, de moutons dévots et de loups pèlerins. Et là, je voudrais mentionner le talent avec lequel les noms des bêtes sont trouvés, parce que toutes les bêtes ont un nom, c'est pas juste Loup le loup et Chien le chien. Et justement, sur le loup et l'agneau, je suis tombée sur Agnolo le loup et Saltimbocco l'agneau. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saltimbocco, c'est une spécialité italienne à base de veau. D'agneau, d'ailleurs. Mais on peut peut-être faire avec les deux. Et je sais pas. Et Ariane, ça c'est pour toi. Il y a un autre exemple d'inculinati qu'on peut débloquer. C'est Andreas, que les développeurs sont allés tirer du jeu Pentiment, que je crois tu avais chroniqué en son temps.
Oui, c'est le héros. Incroyable.
Voilà. Donc les deux jeux sont un peu dans la même ambiance et les développeurs se sont manifestement parlé. Donc au-delà de nos avatars, on peut se battre avec plus d'une cinquantaine de créatures différentes qui sont dessinées et pensées avec un humour qui est très 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 proche des vrais Marginalia. Et pour s'assurer que la source historique est bien respectée, les développeurs sont adjoints les services d'un médiéviste, comme quoi après F.B. Naïm, la super géographe qui avait été interviewée par la Pléiade en novembre, tous les parcours peuvent mener au jeu vidéo. En tout cas, donc chaque caractère trouve sa source dans de vrais manuscrits, en général de l'Europe chrétienne du 11e, 14e siècle. Et le studio cite notamment le bréviaire de Renaud de Bar, un manuscrit français rédigé vers le 12e siècle, où l'on trouve par exemple une armée de chiens menant le siège d'un château défendu par des lapins en armes. L'humour très potache est aussi totalement dans la logique de nos enlumineurs médiévaux préférés. Donc l'esprit, c'est que les lapins avec lesquels on commence à jouer ont tous une attaque spéciale consistant à étourdir l'ennemi en lui montrant leurs jolies petites nashes poignues. Les nashes, et ouais, il n'y a pas que dire y manger, plein de mots. Les nashes, ce sont des fesses. Et dans ce jeu, on est parfois mieux inspiré de donner un petit coup de fesse que de mettre flambergeovant, ce qui veut dire tirer son épée et se jeter dans la bataille sans réfléchir. On a un âne dont l'attaque spéciale consiste à souffler dans une trompette avec son anus. On a une classe entière de personnages bâtis sur des pets. On a des tornades de pets, des explosions de pets. Donc c'est un petit hommage à Worms, apparemment. On peut imposer des ballonnements à ses ennemis, et j'en passe. Donc, si vous vous posiez la question de savoir s'il était volontaire que le nom du jeu Inculinati sonne comme il sonne en italien, la question a été posée aux développeurs et la réponse, vous vous en doutez, est positive. Aussi, fun fact, mais fact sonne tout assez peu surprenant. Si vous êtes en train de penser que Terry Gilliam n'aurait pas renié ce jeu, le lapin tueur de Kerbanog, que vous avez peut-être rencontré dans le film Monty Python Sacré Graal, serait d'après la légende totalement inspiré de Marginalia réelle. Pour revenir au jeu en lui-même, qui a donc été clairement pensé après et pour faire briller l'ADA qui est top, ce que j'ai aimé, c'est que bon, qu'il est très riche, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de stratégies possibles, et en même temps, il n'est pas injouable malgré sa complexité. Et je vais développer un petit peu sur ce point. On commence le jeu avec un tutoriel qui est long, très long, que beaucoup de joueurs ont même trouvé trop long. Mais pas moi. Moi, j'ai trouvé que ça captait justement assez bien mon attention. Ça prend la forme de petites batailles qui sont autant de mini-puzzles pour maîtriser les compétences de base. Et donc, pour des gens qui ont la capacité d'attention d'une huître, et j'en fais partie, et qui pourraient donc être un peu rebutés par un jeu où il y a une myriade de choses à apprendre pour pouvoir vaguement se débrouiller, c'est très très bien fait. Après, ça ne veut pas dire pour autant que le jeu est facile. Sur la question du niveau de difficulté, je suis obligée de vous proposer une cote mal taillée, comme on dit au Moyen-Âge, et une réponse de Normand, comme on dit en Bretagne. Il y a plusieurs niveaux de jeu, et ça dépend duquel on prend. Moi, je crois que j'ai pris le mode normal. Il y a aussi un mode facile, et j'ai l'impression d'avoir rencontré aucune difficulté. J'ai perdu aucun de mes combats, donc a fortiori, je ne recommande pas forcément le mode facile. Et en même temps, j'ai été un peu surprise, mais j'ai trouvé des joueurs qui rageaient sur Internet en disant qu'ils mouraient en mode facile. Bon, bah, peut-être que qu'il n'était pas très, très stratège, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment joué au même jeu et j'ai trouvé justement que le jeu était vraiment très et trop clément quand on faisait des erreurs. Alors que moi, j'ai plutôt, quand je fais des erreurs, j'ai plutôt besoin de me faire fouetter. Après, pas trop non plus, hein. Cuisine comme les jeux vidéo, c'est une question de dosage. Et sans doute que sur les deux modes les plus difficiles, c'est une autre paire de manches. Donc le jeu est assez facile à apprendre, modulo le tutoriel le plus long de la Terre, mais il est plutôt fun et il n'est pas facile à maîtriser parfaitement, ce qui laisse la place au passage à beaucoup de rejouabilité. Autre chose que j'ai apprécié, c'est que la longueur des batailles n'est pas excessive. Je dirais que ça prend 10-15 minutes pour une bataille environ. Et au bout de quelques tours de jeu, si personne n'a gagné, il va se mettre à se passer des petites apocalypses sur la carte qui vont accélérer la fin de la bataille. Ce qui est très bien si on n'a pas des heures devant soi pour jouer tranquillement ou si on n'aime pas passer des heures sur une même bataille. Malheureusement, j'ai aussi quelques petits bémols, il en fallait.
C'est dommage, ça commençait bien.
Voilà, on va rester sur un thème musical. Premier bémol mineur, c'est l'ergonomie. C'est un jeu où il y a beaucoup de textes. Alors moi, j'ai pas vraiment eu le problème, mais ça a été d'abord pensé pour PC. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui disent que sur console, ça peut être un peu difficile. Le deuxième bémol est moins mineur. Je pense qu'il y a une catégorie de joueurs qui vont adorer ce jeu. Quelqu'un qui est fan du Moyen-Âge et qui aime les échecs, hein, en gros, va adorer une Inculinati. Par contre, je pense qu'il y en a qui peuvent un peu s'ennuyer. Enfin, ça m'a pris, je dirais que quelqu'un qui joue vite, ça lui prend 6 heures de finir le jeu. Moi, ça m'a pris peut-être 13 heures parce que je joue pas vite, tutoriel compris, hein. Mais ensuite, la motivation pour rejouer, c'est de débloquer des nouvelles créatures, de débloquer des nouveaux Inculinati et juste d'être le meilleur. Et en fait, moi, je me complais assez bien dans la médiocrité et je ne sais pas si j'ai envie de rejouer 50 000 fois juste pour être la meilleure.
Quand tu débloques de nouveaux Inculinati, du coup, ça te donne des nouvelles façons de jouer, j'imagine.
Oui.
Donc ça, c'est pas suffisant pour toi, ça te motive pas? Parce que c'est rigolo, c'est, du coup, c'est plutôt...
Ça motive, enfin, pour moi, ça motive pour refaire le jeu peut-être une deuxième fois, si on aime vraiment beaucoup le jeu, une troisième fois, mais je dirais pas plus. Mais c'est mon cas à moi. Il y a des joueurs qui ont passé des centaines d'heures sur le jeu. Moi, ça me paraîtrait inimaginable pour moi, mais il y a des gens qui le font.
Ouais.
Donc, c'est pour personnel.
Pour le plaisir de la stratégie, j'imagine.
Pour le plaisir de la stratégie, parce que le jeu est beau, parce que tous les maîtres Inculinati et tous les animaux ont leurs caractéristiques, leurs petites attaques, leurs petites animations, etc.
Ils ont des petits sons aussi, chacun en veut ou pas? Ou t'as une musique médiévale tout du long?
Il y a une musique médiévale, il y a des dialogues écrits. Des fois, il y a des animaux qui parlent bien et des fois, il y a des animaux qui parlent pas bien. Par exemple, j'ai trouvé que les chiens avaient assez peu de répartie et souvent, quand ils sont pas contents, ils disent grrr. Voilà, il y en a qui répondent mieux.
Ariane ?
Oui, alors tu parles, tu as dit plusieurs fois que c'était comme un jeu d'échecs. Est-ce qu'il est possible, tu penses, de jouer à ce jeu à deux ?
On peut jouer à deux. Il y a un mode multijoueur en local, pas sur le net. Ma conclusion, mon wrap-up en anglais. Mon résumo, comme on dit en latin avec l'accent italien, c'est que moi, j'irai pas élever le jeu sur le pavois, selon l'expression consacrée à la cour de Charles VII. Mais c'est un jeu qui est bien fait, qui est drôle, qui est original, qui est très chouette pour toutes ces raisons. Par contre, à moins, vous avez entendu ce que j'en ai dit, à moins que ça soit votre truc, je pense que 25 €, pour moi, c'est un petit peu cher et je suggérerais d'attendre qu'il soit soldé. Il se trouve qu'en ce moment, il l'est, mais au moment où l'épisode sera diffusé, il ne le sera probablement plus.
Juste une toute petite dernière remarque. Est-ce qu'il est possible de dessiner son propre petit personnage dans le jeu ? Ça aurait été cool de pouvoir faire un petit...
Ça aurait été trop cool, mais non, c'est pas possible. Non, dommage.
Eh bien, merci beaucoup, Marion. Simon va maintenant nous faire visiter le superbe Botany Manor et son jardin un peu particulier.
Je dois vous avouer. Mon Dieu. Je ne serai jamais plus le même homme dans ce podcast. Je dois vous avouer quelque chose. Depuis les deux derniers épisodes où Bénédicte nous narrait les aventures de champignons plus ou moins comestibles, je me suis donné le challenge que chaque épisode de la Pléiade en 2024 parlerait de champignons. Je ne sais pas si je tiendrai ce pari débile, mais c'est ce qui m'a fait découvrir Botany Manor. Et rien que pour ça, ça valait le coup. Nous sommes en 1880. On incarne Arabella, une botaniste d'âge avancé, qui hérite du manoir familial et qui va avoir la tâche de continuer les recherches autour de plantes fantastiques. Le jeu est à la première personne avec les décors qui sont très colorés, avec des formes rondes, une végétation qui a l'air de respirer à tout moment. On est dans un jeu d'énigmes dans le style de The Witness, où on remplacerait les puzzles affreux par des plantes à faire pousser. Et oui, car chaque espèce de fleur a une particularité qu'il va falloir comprendre pour les faire éclore. Par exemple, la première fleur, et c'est la seule que je vous spoilerai, rassurez-vous, puisque c'est un peu la base du jeu, hein, nécessite de la mettre dans une pièce avec une certaine température. Pour trouver la bonne température, il va falloir chercher des indices qui permettent de comprendre le fonctionnement de la plante, etc. etc. On active les mécanismes qui vont bien pour la faire éclore, et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Chaque plante est donc une énigme hyper plaisante à résoudre et qui demande beaucoup d'attention et de réflexion, vraiment de rentrer dans le monde. Et chose très importante, surtout pour moi, pour ces jeux un peu à énigmes, la difficulté est extrêmement bien dosée tout du long, sans jamais, je me suis jamais, pendant les quelques heures que représente l'aventure, jamais retrouvé dans une impasse. Ensuite, autre point important du jeu, et c'est dans le nom, on a le manoir, qui est vraiment un personnage important. Il va falloir s'approprier les lieux pour pas se perdre et faire un lien entre tous les indices trouvés un peu partout. Lord DeMay, alors c'est pas du tout son nom en anglais, mais je sais pas du tout comment ça se prononce, la créatrice anglaise du jeu dit qu'elle a été inspirée à la fois par la maison de Charles Darwin et le manoir de Lara Croft comme cadre à ses histoires de plantes fabuleuses. Juste la maison de Darwin, hein, parce que Charles était aussi un gros conte sexiste, il faut le mentionner. Bref, le manoir est un super terrain de jeu coloré qui, avec un travail remarquable autour des sons, crée une ambiance hyper relaxante qui m'a extrêmement plu. Les parquets craquent, le vent fait battre les volets dans le grenier, bref, il y a une vie et une ambiance, une vie vraiment dans un jeu qui est en plus dépourvu d'une moindre représentation humaine, puisqu'on est vraiment sur un tout petit budget. Et comme on l'avait vu à une certaine époque, c'est compliqué de faire des humains dans un jeu vidéo, ça coûte très cher. Et là, c'est clair qu'ils ont vraiment très très bien réussi à faire croire que tout est très vivant sans avoir une représentation d'humain. Mais pour trancher avec tous ces aspects ultra moelleux, comme je le disais en intro, le jeu se passe à la fin du 19e siècle et met en scène une femme scientifique. Donc vous imaginez l'enfer que ça a été pour elle à cette époque, avec tous ces scientifiques mâles sexistes. Cette époque où la femme était réduite à une machine à procréer et retranscrite via des lettres et articles de journaux qui rabaissent continuellement Arabella dans toute sa tentative à être autre chose qu'une gestionnaire de foyer. Le but du jeu est d'ailleurs de construire un recueil sur ces plantes merveilleuses et de le soumettre à l'Académie des sciences. Et je vous laisserai découvrir par vous-même la fin douce, amère et très belle qui conclut l'aventure magistrale si vous êtes encore une fois amateuriste de puzzles, d'ambiance soignée et de propos féministes, qui est un peu la base du jeu.
Le jeu a écrit le recueil et son mari a eu le prix Nobel.
Je te laisserai découvrir toi-même. Pardon. Le jeu, de façon un peu plus technique, est traduit dans de nombreuses langues. La traduction française marche très bien parce que c'est vrai qu'on parle de fleurs. Beaucoup de fleurs sont connues et j'ai eu beaucoup de mal en VO parce que j'ai aucune notion de fleurs. Déjà, j'ai aucune notion de fleurs en français. Donc, j'ai beaucoup de mal à avoir des notions de fleurs en anglais. Donc, c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir la VF, en tout cas sur les textes, pour pouvoir s'y retrouver un peu plus facilement. Et on a des options pour les personnes souffrant de mal des transports. On peut vraiment régler plein de choses pour éviter d'avoir la gerbe tout au long de l'aventure. Autre point technique, il est dispo partout, sauf sur PlayStation. Je ne sais pas du tout pourquoi.
Pas encore, peut-être.
Voilà, ça c'est comme ça. Oui, juste pour terminer, parce que j'en ai vraiment... parce que je vous disais que j'avais un challenge cette année.
C'est champi.
Et voilà, et on a bien un champi à faire pousser, et c'est un autre spoil que je vous donne, mais bon, ça vous gâchera pas l'aventure. Il est nommé le Saphir Mélancolique, ou Saphir Gloom en VO, qui est décrit dans le jeu comme le plus incompris de tous les champignons, avec son chapeau bleu tout mignon, et c'était un bonheur quand je l'ai rencontré. Parce qu'à un moment donné, je savais pas si j'allais vraiment rencontrer un champignon, je savais pas si j'allais pouvoir parler de ce jeu, et heureusement, le champignon est apparu, et je peux vous en parler aujourd'hui.
On est tous très contents.
La quête du champi.
Ariane, donc ta question.
Oui, en fait, est-ce que le jeu est 100% réaliste, ou il y a un petit peu de surnaturel?
Tout est surnaturel. Chaque
plan. Ça, parce que je vois des petits plans qui me font un peu frissonner à la film d'horreur d'exorcisme et tout. Et je trouve ça assez chouette.
Ah non, c'est mignon, hein, quand même. Mais,
ah bon? T'es sûr? Ouais.
Oui.
Est-ce que c'est Choubi?
Moi, je dirais que c'est Choubi, mais j'ai plus la carte Choubi. J'ai perdu ma carte Choubi au dernier épisode.
Oui, c'est fini.
Est-ce que maintenant, tu veux avoir ton petit jardin à la maison?
Franchement, ça donne.
énormément envie de nature, ça donne énormément envie de faire pousser des plantes, ça c'est vraiment fort. Et évidemment, toutes les plantes que j'ai décrites, et du fait que ce soit des énigmes, partent sur de... Voilà, c'est des choses fantastiques, imaginaires. Mais en essayant... c'est toujours un entre-deux entre imaginaire et réalité, parce qu'en effet, ça va parler de feu à un moment donné. Il y a des plantes, en effet, qui sont plus favorables au feu, ce genre de choses. Mais évidemment, le but, c'est de faire pousser de la plante un peu de façon instantanée. Donc, on n'est pas sur quelque chose de trop réaliste.
François ?
Moi, j'aurais voulu avoir un petit exemple. Je ne sais pas si tu peux nous narrer un exemple de puzzle sur une plante qu'on peut avoir. J'ai du mal à me figurer ce que c'est.
Franchement, ça serait dommage. Il n'y en a pas tant que ça, des plantes. Il y en a une dizaine, douzaine.
Dans
tout le
jeu ?
Ouais.
Ah ouais, d'accord. Ouais, je pensais qu'il y en avait des centaines. Moi.
Ah non, une plante, ça prend du temps pour la faire pousser. Tu récoltes une dizaine d'indices, des fois 15 indices, pour essayer de comprendre plein de choses, mettre en place des mécanismes, etc. La première, je te dis, c'est le tutoriel du jeu. Tu es dans une serre, et puis tu comprends assez vite, en récupérant 2-3 indices, que là, tu vas devoir faire pousser une plante qui ne pourra éclore que à une certaine température. Et donc, il va falloir trouver, avec tout un mécanisme, comment mettre la bonne température avec un système de déduction. Et donc, une fois que tu as mis la plante dans des bonnes conditions, hop, elle apparaît avec une super musique.
Il y a aussi de l'exploration.
Il y a beaucoup le manoir, tu l'explores vraiment de fond en comble.
Tu trouves un thermomètre, c'est pas à quoi ça te sert. Et puis, à un moment donné, sur une plante, tu vas dire, ah, mais c'est pour ça.
Exactement.
Ok.
Petite question corollaire, vu que c'est de la flore magique et que tu dois réunir parfois des conditions pour les faire pousser, est-ce que tu as des conditions qui sont plus, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que tu lui parles d'une certaine façon, que tu souhaites dans un certain état d'esprit, que tu vois des trucs un petit peu plus ésotériques ?
Disons, comme je disais, il n'y a pas d'humain. Enfin, même nous, on n'est pas représentés en tant qu'humain dans le jeu. On est nous à la première personne, mais on ne va pas vraiment interagir avec les plantes. C'est plus, on va faire interagir l'environnement avec la plante. Mais, par exemple, à un moment donné, ça parle de montagne, pour une certaine raison. Et donc, tu vas devoir la mettre dans des conditions autour de la montagne. Et derrière, tu vas avoir toute une explication sur les premières femmes qui ont fait des randos, etc. Enfin, tu as tout un contexte. D'accord. C'est plus le contexte qui va te présenter autour de la plante dans le cadre de la résolution de l'énigme, mais c'est pas, tu vas pas parler à une plante ou tu vas, enfin voilà, je sais pas si c'était quoi ta question.
Non, non, si c'est pas, c'était, tu as répondu.
En tout cas, voilà, c'est vraiment, ça dure pas très longtemps, ça dure 4-5, moi ça m'a mis 4-5 heures, et je suis un peu lent du cerveau, mais ça peut aller plus vite, mais c'est tout est agréable. Enfin, je veux dire vraiment ce que j'ai parlé du manoir, mais même le jardin, s'y promener avec les oiseaux, enfin ça fait vraiment du bien, c'est hyper agréable.
Et on a hâte de découvrir, ce sera quoi le prochain champignon du prochain épisode ?
Eh bien, ça, vous le verrez dans un mois.
Merci beaucoup, Simon. Et Aurélie, on va poursuivre avec toi et Soldiers, une épopée rétro toute pleine de gros pixels.
Alors, petite musique plutôt, en tout cas, qui moi m'a semblé classique et qui m'a tout de suite rappelé les RPG de mon enfance. Dragon Quest et Final Fantasy en priorité. Donc, il s'appelle Soldiers, ce jeu. Il est développé par des Espagnols. Je ne savais pas, je l'ai découvert. Des Espagnols de Retroforge. Donc, typiquement, quand on voit le nom du studio, ils visent le rétro gaming. Il a été édité par Dear Villagers et Plugin Digital, qui sont plutôt spécialisés dans les jeux indépendants et les jeux Steam. Il est sorti en juin 2022 sur Steam, mais moi je l'ai découvert dans sa version physique sur Switch, édité en version boîte par Pix & Love Games. Pix & Love, à la base, c'est un MOOC et ils se sont mis à éditer des jeux vidéo en boîte. Donc je précise sur quelle version j'ai joué, c'est important pour la fin de mon test. Donc j'ai d'abord eu un gros coup de cœur pour la direction artistique de ce jeu, qui est en pixel art très coloré et vraiment fourmillant de détails et d'animations, que ce soit dans les personnages, les décors, les effets spéciaux. Des fois, la console a un peu du mal, déjà pour les chargements de niveau, mais aussi, des fois, il y avait des petits temps de lag. Donc si vous êtes sensible à cet aspect technique, c'est un défaut, mais moi je ne suis pas du tout sensible, au contraire j'adore le fourmillement de détails, les couleurs, les lumières, enfin, dans des environnements extrêmement variés, et pour moi gros point de force, surtout que le jeu commence comme un peu dans les jeux de notre enfance par une magnifique cinématique qui nous donne envie de nous plonger dans l'histoire. Donc on va jouer un héros ou une héroïne, on ne nous dit pas trop, qu'on va croire mort, mais en fait, non, il n'est pas du tout mort. Il se retrouve entre un monde qui est aux confins de l'au-delà, qui est un peu entre le monde des vivants et des pas vivants, qui s'appelle le monde fantastique de Terra Gaia. Donc, on est à la rencontre de Valkyries qui vont nous donner des missions. Au début du jeu, on ne comprend pas trop pourquoi elles nous donnent ces missions. Et pour commencer la partie, on doit choisir parmi un des trois héros et héroïnes, soit un archer, soit un magicien, soit un guerrier. Moi, j'ai joué avec le guerrier parce que j'adore foncer dans le tas, j'ai pas envie de réfléchir, je veux avoir beaucoup de PV et surtout pas devoir rester à distance ou encore plus utiliser de la magie. Clairement, ça ne me plaisait pas, donc je n'ai joué qu'avec ce personnage-là. Donc évidemment, là vous aurez le choix, mais vous pouvez pas le changer pendant l'aventure. Vous pouvez pas non plus avoir des, comme dans certains RPG, où grâce à un arbre de compétences, on peut choisir un guerrier et aller plus vers le magicien ou plus vers l'archer. Là, si on choisit le guerrier, on va développer des compétences plutôt de guerrier. Par contre, il va y avoir des âmes secondaires, quel que soit le choix du personnage, c'est tout le temps les âmes secondaires. Il y en a beaucoup, il me semble que plus d'une dizaine, ça c'est sûr. Selon le choix du personnage, on aura soit plus de PV, soit plus de mana, soit plus de défense. On a un bouclier qui peut être brisé. Donc en fait, si on perd ce bouclier, on perd de la défense. Donc pareil, selon le choix du personnage en début d'aventure, ça va impacter toute la suite de l'aventure. Donc ça, faut bien choisir selon nos envies et puis nos capacités, j'ai envie de jouer joueur ou joueuse. Le jeu est plutôt linéaire au début, puisqu'on a une quête principale donnée par les Valkyries. En gros, sauver sa peau et sauver le monde. Et au fur et à mesure du jeu, on va découvrir qu'en fait, on est dans des donjons gigantesques qu'on ne peut vraiment découvrir que quand on débloque les 6 pouvoirs du jeu, qui sont des sortes d'orbes de pouvoirs. Il y a le vent, l'eau, l'électricité. Enfin, c'est assez classique, hein. C'est feu, eau, sable, électricité, vent et un truc mais normal. Et donc au début, on a cette mission principale et au fur et à mesure, on va, comme dans beaucoup de RPG un peu classiques, avoir un village qui va nous permettre d'améliorer nos armes, d'améliorer notre bouclier, d'acheter des amulettes ou en tout cas d'avoir des missions secondaires qui nous permettent de progresser dans l'aventure et de devenir de plus en plus fort. Il y a évidemment des points d'expérience et des niveaux. Le jeu, moi j'ai passé une vingtaine d'heures, je ne l'ai pas fini, je pense que j'ai fait 80%, mais il me manque en gros un des pouvoirs, il me manque le vent. J'ai deviné qu'il me manque le vent parce que je vois qu'il y a des sortes de petits moulins où je suppose qu'il faut faire tourner le vent. Et du coup là, le jeu il fonctionne très très bien parce qu'on a envie vraiment de progresser dans l'aventure, pas pour son histoire. En tout cas, moi, j'ai pas eu envie de progresser pour ça, mais vraiment pour débloquer des pouvoirs, avancer. Il y a une grosse partie aussi plateforme que j'ai pas dit. Exemple, si on utilise l'orbe du sable, on va faire apparaître des plateformes de sable et pouvoir sauter dessus et découvrir des endroits cachés. Si on a l'orbe de l'eau, on peut devenir une sorte de petite blob d'eau et puis aller dans les égouts et puis aller dans des tuyaux et puis marcher dans l'eau. Donc tout ça, c'est très 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 bien très bien pensé. Je trouve que le game design et le level design sont finement liés. Et bravo à l'équipe parce qu'ils sont pas nombreux chapeau. Le jeu a aussi évidemment beaucoup de combats. Il y a plein d'ennemis très différents selon le type de niveau. Si on est dans les égouts, un désert, la plaine, etc. Il y a aussi des boss qui sont difficiles à battre, parfois très difficiles à battre parce que certains boss vont mélanger plateforme, slash je change d'orbe, slash j'attaque des ennemis, slash j'utilise mes armes secondaires, etc. Surtout que quand on meurt, on n'a qu'une vie, donc on recommence le boss à zéro. Ça, c'est aussi assez rétro comme façon de faire. Moi, j'ai commencé le jeu en mode normal. Il y avait facile, normal, difficile. Et je suis passée en mode facile, d'une, parce que le jeu est très difficile. Et au début, il paraît assez simple, mais au final, on se rend compte qu'il est complexe. Mais aussi parce que le jeu a malheureusement des bugs. Moi, j'ai beaucoup de bugs de sauvegarde. Et à un moment donné, j'ai réussi à battre un boss, mais j'en étais peut-être au 20e combat quand je l'ai battu, peut-être même 30e, j'en sais rien. J'ai voulu sauvegarder et en fait, ça m'a fait erreur de sauvegarde. Et je fais non. Et en fait, j'étais dégoûtée. J'ai recommencé le boss en mode facile et là, j'ai continué le jeu en mode facile. Parce qu'une fois qu'on se met en mode facile, on peut repasser en normal, mais on perd les récompenses, quand on a des trophées, là, les achievements. Oh, alors ça m'a dégoûté. J'ai dit, c'est bon, je reste en facile. Mais même en facile, le jeu a beaucoup de challenges. Il reste très challengeant. D'où, effectivement, le clin d'œil, je pense, au Dark Souls. C'est clairement un jeu à la Dark Souls où, si on veut rester en mode normal, voire difficile, il faut s'accrocher. Donc voilà. Donc je dirais que moi, gros coup de cœur pour ce jeu. Vraiment, m'a rappelé des action RPG que j'adorais, vraiment que j'ai retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé vraiment le goût que j'avais à jouer au RPG quand j'étais petite, tout en étant très dynamique, très plateforme et tout. Mais mon gros point négatif, c'était quand même ces bugs de sauvegarde. J'en ai eu, je pense, en une trentaine d'heures de jeu, au moins une dizaine. Et c'est très rageant, surtout que j'ai fait les mises à jour, que j'ai retiré des jeux de ma Switch. Donc ça, je peux pas vous dire si c'est sur toutes les consoles. J'ai pas remarqué. Enfin, j'ai remarqué sur certains tests qu'il y avait des bugs qui étaient signalés. J'ai pas remarqué que le bug de sauvegarde revenait systématiquement. Donc ça, c'est peut-être lié à ma console ou je ne sais pas. En tout cas, là où c'est, où montrer je le conseille pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on aime le côté rétro, c'est un très bon jeu qui fait vraiment plaisir pour plein d'aspects. Il est aussi à 20€ à son prix normal, mais il y a souvent des promotions sur sur les, on va dire en téléchargement, que ce soit Steam ou console. La version boîte c'est 40€ et il y a une version collector à 80€ avec un artbook de 80 pages et puis l'OST complète du jeu et des cartes collector et c'est signé, c'est numéroté. Voilà, donc dernier petit point sur la soundtrack que je trouve que vraiment j'ai pas du tout coupé le son, au contraire je me remettais le son quand je jouais. Parfois je coupe le son quand un jeu est trop répétitif, là pas du tout, qui est de Will Savino. Et donc pour finir, comme j'ai pas chanté, on peut peut-être finir par ce petit brin musical.
Tu peux chanter.
Non.
Allez.
J'ai envie de chanter là-dessus. François, une question ?
Oui, j'avais une question. En fait, tu parles beaucoup d'action RPG et en fait, moi, ça me rappelle Ghosts and Goals. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus sur un action performer, tout ça, un côté très arcade. Le jeu est nerveux, il est long. Il y a quand même, tu dis en plus que tu n'as pas trop été accroché, toi, par le côté aventure. Il y a vraiment un côté RPG si marqué que ça ?
Non, t'as raison de me reprendre là-dessus. Il est plutôt dans l'action et la plateforme. C'est plutôt une sorte de Metroidvania pour le fait de retrouver. De retrouver des grands espaces à explorer avec des cartes immenses et un côté un peu roguelike dans le sens où faut parfois refaire les boss, enfin faut très souvent refaire les boss avant de comprendre comment on les tue.
Diane Retry,
pardon, excusez-moi, mauvais terme. Mais en gros on recommence souvent, il est très nerveux, il y a beaucoup d'action. Je pense que c'est beaucoup d'action, ensuite beaucoup de plateformes et ensuite c'est RPG. Il a une sauce RPG, mais t'as raison, le fait que le scénario soit un peu en décalage. C'est vraiment dans sa construction, le fait de choisir le personnage, d'être dans un archétype, d'avoir des amulettes, des armes secondaires. Mais oui, il est plus...
Et là, tu sais à peu près à combien de temps de jeu t'en es, toi ?
Moi, j'ai joué une trentaine d'heures et j'en suis à 80%. Mais je prends vraiment mon temps.
30 heures, mais c'est...
Mais parce que je suis très lente, c'est comme Simon. Je pense que je prends le double du temps de quelqu'un de normal.
Il y a des longs plays à plus de 20 heures sur Internet.
Ouais, mais j'en ai trouvé un qui faisait une bonne dizaine d'heures. Mais je pense qu'il trace.
Ah, moi, je suis trop saucé, en fait. Quand je le vois, je l'avais noté. Et puis, il est sorti en... Je sais pas si t'as rappelé sa sortie, mais il est déjà sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois.
Il est sorti il y a 2 ans, il est sur toutes les consoles, là. Donc, PS4, PS5, Switch, Xbox One et PC. Donc, après, voilà. Moi, je disais, c'est vraiment ces bugs-là m'ont vraiment un peu dégoûté. D'avoir quitté le mode normal pour être en mode facile, parce que le jeu est déjà assez difficile. Mais si, en plus, les bugs nous font rager, c'était un peu le...
Peut-être tu joues sur Switch, non ?
Peut-être, je sais peut-être pas. Encore une fois, le bug des sauvegardes n'est pas revenu systématiquement dans les tests, mais il y a des bugs, ça c'est revenu plusieurs fois.
Merci Aurélie. Et c'est maintenant l'heure de nos petits œufs de Pâques, apportés un peu en retard par les cloches. J'ai nommé nos snacks. Je viens de me rendre compte, c'est comme si je vous traitais de cloche. Tu vas ouvrir le bal avec quelques jets de dés.
Slice and Dice, des dés du tranchant, est un jeu merveilleux où on incarne un groupe de 5 archétypes du jeu vidéo qui possèdent un D6 chacun, où chaque face représente une action. attaque, défense, magie. Vous connaissez ? Non, parce que c'est... vous connaissez pas ce jeu ?
C'est pas un jeu de rôle.
On va affronter des vagues de monstres jusqu'à tuer le boss du donjon, tout ça en jetant des dés. À chaque victoire, on améliore un de ses personnages ou on ajoute un objet qui va modifier une phase de ses dés. Bref, c'est fabuleux. Slice and Dice, c'est un jeu un peu vieux mais qui vient à peine d'arriver sur Steam dans le cadre de sa 3.0 et j'en parle dans le cadre des snacks puisque des schnapps, puisqu'il a une version free-to-play bien garnie, disponible sur mobile, qui vous prendra déjà des heures et des heures à vous à faire le tour avant, si comme moi vous êtes tellement tombé amoureux du jeu que vous dépenserez les quelques euros nécessaires à l'achat complet. Slice and Dice pourrait reprendre la pub des années 90 qui disait « À nous de vous faire préférer le métro ». Tu vas vous l'avez pas celle-là. Hein. Merci. Oui, non, c'est à vous. Oui,
c'est à nous de vous faire préférer l'autre chose.
Oui, oui, mais là c'est le métro. Tellement maintenant j'ai envie d'aller dans le métro pour jouer à ce truc.
C'est une bonne blague. Wow.
Vous faites des chants, moi je fais des blagues. Voilà, c'est chacun son style. Merci Simon.
Merci. C'était fini, pardon. C'était ta blague de fin.
Dans quelques heures.
Merci Simon. Marion, tu vas enchaîner avec une histoire de peluche abandonnée.
Eh oui, après Saltimbocco, l'agneau dévot du Moyen-Âge, je poursuis le thème pascal et vais vous entretenir un peu de Chippy, S-H-2-E-P-Y, le petit mouton mignon des bas-fonds. Chippy, c'est un mouton en peluche qu'on joue dans un jeu de plateforme éponyme sorti en février. Tout commence quand il se retrouve mystérieusement dans un endroit qui ressemble à des égouts abandonnés d'une ville ou d'une zone industrielle. Manifestement, il s'est passé un truc et on essaie de comprendre quoi, ce qui implique d'avancer, de se perdre et de se battre contre des ennemis, principalement un ours en peluche, Patches. Le jeu est très très beau, j'ai adoré la palette de couleurs avec beaucoup de bleu, de violet et de rose, ça se joue très bien. Même au clavier, il faut souligner, parce qu'en théorie c'est plutôt un jeu qui est fait pour manette et j'avais un peu peur, n'ayant pas de manette pour jouer sous la main. Il y a un ou deux passages où j'ai un peu galéré, mais en fait ça se fait bien sur clavier. Et le gameplay est quand même assez fluide. Le niveau de difficulté est très bien calibré, c'est ni trop facile ni trop dur, c'est un jeu de type die and repeat, meurt et recommence, où donc on y passe souvent, mais en général on arrive quand même à passer les épreuves avant que le jeu ne passe par la fenêtre. Donc la durée est parfaite, ça prend environ 3 heures. C'est un jeu qui est le premier fait par Thomas Lynn, qui est plus connu sur les internets sous le nom de Mr. Suicide Ship. Il est aussi musicien de musique électronique. Donc franchement, pour un free-to-play, c'est une tuerie. Je trouve qu'un jeu gratuit de cette qualité, ça court pas les rues et je ne peux que suggérer de courir l'essayer. J'espère que Simon sera d'accord avec moi puisque je sais qu'il y a joué aussi, mais comme la dernière fois que j'ai recommandé un jeu, il l'a critiqué.
Non, c'est une anomalie. Hein. Tellement c'est bien pour un jeu gratuit, free-to-play. J'espère que ça sera bénéfique pour le créateur, que ça le mènera dans des endroits sympas pour lui, mais pour sa prochaine production peut-être. Mais non, c'est un jeu hyper complet, c'est super.
Il est trop bien.
Magnifique, tout est parfait en fait pour une expérience de 3 heures.
Merci Marion.
Et il y a des achievements, des super achievements.
Et merci Simon.
Et ça se dit comment en allemand ?
Achievement.
François, tu vas maintenant nous emmener sur une île étrange.
Et ouais, ça c'est la musique de Player Non Player. C'est un jeu de Jonathan Corin, ou Corin, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui est sorti le 4 avril. En vue à la première personne, on atterrit sur une île mystérieuse et mélancolique qu'on va librement explorer en tentant de jouer un rôle décisif, celui d'accompagner ces 4 habitants tourmentés vers l'accomplissement de leurs désirs inachevés, découvrir leurs rêves et finalement les mener vers la paix. On entre dans une expérience unique, un mélange de puzzle game et de dating sim, avec un ressenti et des thèmes particulièrement modernes et puissants, puisque le jeu offre la possibilité de caresser ou de saisir les autres. Player Non Planner, c'est un jeu queer qui explore des thèmes matures tels que le deuil à travers le prisme de l'intimité, y compris l'identité sexuelle et de genre, l'amitié et l'amour. On se promène de surprise en découverte, recherchant la progression dans ces décors à la fois dénudés et remplis de plages, de villas, de forêts, de structures architecturales et de roches au travers de petits puzzles et d'une forme de connexion qu'il vous faudra trouver pour relier les choses et les gens entre eux. De rencontre en au revoir, C'est délicat et brutaliste à la fois. C'est dérangeant et attachant et ça m'a beaucoup plu. Même si c'est difficile de vous en dire plus, à part que cela m'a provoqué une émotion encore assez rare pour un jeu vidéo. C'était développé pendant 5 ans et c'est sorti en même temps que le nouvel album éponyme du duo électropop français d'Agar Agar. Le jeu partage d'ailleurs une histoire unifiée avec cet album, la musique étant intimement liée à la narration du jeu. Notamment le clip Trouble qui sert de préquel aux événements décrits dans Player Non-Player. Il n'y a pas de champignons dedans, quoique ça pourrait, mais il y a la voix de doubleurs français émérites dans le jeu vidéo, tels que Françoise Cadol, qui a été la voix de Lara Croft, de Donald Renew, qui a joué dans The Last of Us, et de Pierre-Alain de Garrigue, qui a fait World of Warcraft, Warcraft 3, Fallout 3, Warcraft 2, etc. Le journal en a dit que c'était une vertigineuse complexité artistique et technique. Et moi, je vous en dis, jouez-y, parce que c'est vachement bien, et que ça a en plus été récompensé du prix Most Amazing Game Award au festival Amaze de l'année dernière. Et soit dit en passant, ce n'était pas 10€, c'était 9,99€. C'est disponible sur Mac et PC.
Mais alors, François?
Mais alors, Bénédicte?
Tu nous parles de Maze.
Bénédicte!
Tu nous parles de Maze.
C'est fou.
Mais.
C'est fou.
Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose, Amaze, les autres?
Je ne sais pas.
C'est amazing.
Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un super festival de jeux vidéo qui a lieu à Berlin en mai et auquel la Pléiade va se rendre cette année!
Wunderbar.
Donc on y sera pour toute la durée du festival. On met Thibaut dans notre valise avec tous ses micros.
On
va
tous
faire des interviews, des rencontres,
j'espère.
Voilà,
du
plein
jeu,
de choses.
Des soirées piscines.
Boîte et bière.
D'autres soirées peut-être, on verra.
Et on va essayer de vous ramener plein de trucs et plein de matos. Et plein
n'hésitez pas si vous voulez.
Si vous êtes allemand.
Qu'on pose des questions absolument à vos développeurs préférés. Si vous avez des recos sur la ville ou si d'ailleurs vous voulez juste nous faire des bisous, des compliments. Comme vous le faites déjà bien. Bref, si vous voulez nous faire des petits commentaires en avance sur ce séjour à Berlin, n'hésitez pas. En tout cas, on vous ramènera plein de choses pour le prochain épisode. Plein de belles découvertes, on l'espère. Et puis, au pire, on découvrira rien et on mangera des currywurst et ce sera déjà
très
bien.
Ce sera très bien.
Voilà, ce sera du 8 au 11 mai, si je ne m'abuse, en termes de date officielle du festival. Et après cette incroyable annonce, il est maintenant l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeux vidéo. On va commencer par la reco série d'Ariane.
Tout à fait. Alors en ce moment, j'ai une grande passion dans les séries, c'est tout ce qui est catastrophe à l'échelle de la Terre. Mais non, mais rigolez pas, c'est très sérieux.
Ah ben, l'intro est
donc,
bien.
Donc après avoir terminé dans le piège du volcan Wakari, où des gens ont été brûlés vifs, c'était terrible, et avoir revu Tchernobyl, eh bien j'avais raté cette série, The Days, qui parle de Fukushima. Voilà, donc c'est 8 épisodes sur Netflix qui retracent exactement comme Tchernobyl ce qui s'est passé donc le 11 mars 2011 à Fukushima Daiichi, qui avait été frappé par un séisme de magnitude gigantesque à 9.1, avec un tsunami qui a fait plus de 20 000 morts. Bref, la série est en japonais, avec un casting quasiment uniquement masculin, et assez anxiogène, assez scientifique par rapport à Tchernobyl, où on comprenait quand même bien ce qui se passait. Donc, c'est pas une série où on peut siroter un café à côté. Il faut vraiment déjà lire les sous-titres et s'accrocher. Mais ça permet d'en apprendre beaucoup plus, en fait, sur ce qui s'est passé, parce que moi, j'avais déjà oublié. C'est plutôt bien fait. C'est pas aussi captivant et catastrophique que Tchernobyl, mais ça vaut quand même le coup de voir ça, parce que ça a quand même affecté. C'est quand même une catastrophe nucléaire niveau 7, niveau maximal. Et c'était plutôt intéressant. J'ai passé un bon moment. Et toi, Bénédicte, quel est ton QL de ce mois-ci?
Alors, dans un tout autre genre, ma reco du jour, c'est une série de romans de science-fiction qui s'appelle Les Voyageurs et qui est sortie tout droit du cerveau d'une formidable autrice appelée Becky Chambers. Je viens d'en lire 2 tomes. L'espace d'un an et Libration. C'est bien Libration et pas Libération. Et le troisième tome est sur ma table de chevet, prêt à me régaler. Me régaler de quoi, me direz-vous ? Eh bien, d'un univers foisonnant, d'un panel de races extraterrestres extrêmement bien pensées et d'intrigues qui sont tour à tour poignantes, étonnantes et réconfortantes. Et sa grande particularité à Becky Chambers, c'est d'écrire tout un tas de personnages non genrés, multigenrés, gender fluide, le tout avec une narration et un style qui pourront réconcilier même les moins woke des fans de SF avec l'écriture inclusive. Cette prouesse est en fait l'œuvre de deux femmes, si on lit Becky Chambers en français, puisque travaille aussi dans l'ombre Marie Surgers, la traductrice de Becky. Elle fait un travail formidable pour retranscrire les subtilités de genre, de sexualité, de coutumes et de personnalité des protagonistes imaginés par l'autrice, en dialoguant de manière soutenue avec elle. Elles s'échangent beaucoup de mails, elles se sont déjà vues en vrai, etc. Et j'ai eu la chance de participer à un atelier de traduction non genrée avec Marine, la traductrice. Ça a été une expérience passionnante, vraiment édifiante. Je vous mets au défi de ne pas vibrer pour leur science-fiction bienveillante et intelligente. Foncez vous procurer au moins les premiers tomes des Voyageurs qui sont dispo en poche à pas cher. On va maintenant continuer avec la reco expo d'Aurélie.
Alors, mon exposition, c'est à la fois une exposition permanente et temporaire. C'est à l'Institut du Monde Arabe, on dit aussi Lima, à Paris. C'est l'exposition « Bagdad, redécouvrir Madina al-Salam » avec Assassin's Creed Mirage. Donc, en fait, c'est une exposition qui a été faite en collaboration entre Lima et Ubisoft, Ubisoft Bordeaux, qui a développé Assassin's Creed Mirage. C'est une exposition temporaire qui est du 28 février au 10 novembre. Elle est toute petite, hein, elle ne fait que deux salles. Il y a trois vidéos, on va dire une dizaine d'objets exposés et peut-être des images. Et en gros, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on fait le rapprochement entre la culture et le jeu vidéo. On comprend vraiment comment l'aspect culturel et ce que peut amener un musée, donc ainsi que des historiens, des géographes, peuvent apporter au monde du jeu vidéo. Et le monde du jeu vidéo, comment il peut faciliter l'accès au musée. J'aime beaucoup l'idée de me dire que des ados ou des enfants peuvent aller voir cette expo, écouter des développeurs de Assassin's Creed expliquer la création du jeu. Et qu'en se plongeant dans l'univers d'Assassin's Creed, on découvre Bagdad, comment il était au 9e siècle après Jésus-Christ. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment une plongée dans l'univers qui était assez incroyable. Un truc aussi que je trouve assez chouette, c'est le prix. C'est entre 0€ et 9€ selon notre âge et puis nos conditions. Ça, je trouve que c'est chouette. C'est rare à Paris, des musées pas trop trop chers. Et puis j'ai appris plein de choses. Donc je conseille aussi de faire l'exposition permanente de ce musée qui permet des visites guidées ou des visites comptées qui, ouais, pareil, plongent complètement dans l'univers arabisant et qui font voyager. Je trouve que le partenariat est très intelligent et j'espère qu'il y en aura d'autres avec des expositions plus conséquentes, parce que là, le seul petit reproche, c'est que c'est court, il ne faut pas y aller que pour cette expo, mais si on peut faire le musée en même temps, grosse reco.
Merci Aurélie. Marion, tu as une reco lecture pour nous.
Exactement, c'est un témoignage qui s'appelle « Alger, capitale de la révolution de Fanon aux Black Panthers », d'une femme d'origine juive américaine qui s'appelle Hélène Moktefi, qui s'est rapprochée du FLN pendant la guerre d'indépendance algérienne et a épousé un des cadres de l'armée de libération nationale. Elle s'est installée à Alger après l'indépendance en 1962. Donc, c'est ce qu'on appelait les pieds rouges, les gens qui sont allés là-bas en 62 pour faire la révolution. Et elle y a travaillé une douzaine d'années comme journaliste et traductrice. Et donc, elle y raconte ces années à un moment où la ville était en pleine effervescence entre les luttes révolutionnaires, anticolonialistes, antiracistes. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui me touchait aussi personnellement parce que mon père, qui est décédé il y a plus d'une vingtaine d'années, était algérien et très proche des milieux qu'elle décrit dans son récit. Donc quand par exemple elle parle du festival panafricain de 1969 où viennent jouer Archie Shepp, Dave Burrell, Nina Simone ou Oscar Peterson, moi j'ai la BO dans la tête parce que j'ai grandi avec et je me disais que bon, en plus probablement
elle l'avait rencontré à un moment parce que la Terre n'est quand même pas si grande que ça. Et donc voilà, c'est un récit historique et politique qui est en soi fascinant et qui venait aussi croiser une histoire familiale dont je regrette d'avoir pas plus parlé avec le principal intéressé.
Merci beaucoup Marion. Et on va terminer avec Simon et sa traditionnelle reco musicale.
Mais oui, et assumer d'appeler son album El Magnifico n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est le cas pour l'anglais Ed Harcourt, qui pour son 11e album en deux décennies de carrière propose un petit bijou de pop 70s. Chaque morceau possède son moment de grâce qui rend rêveur et on passe vraiment de pépite en pépite pour un album magnifique tout simplement.
C'est tout, that's all.
C'est
just what you say.
Le truc s'appelle El Magnifico, je l'ai traduit en français, ça veut dire magnifique.
Ah, je m'en serais pas douté.
Et en fait, il parle pas de lui, bah non, il parle de l'album.
C'est piégeux.
C'est fou. Et voilà.
C'est un faux ami.
C'est un vrai ami, lui. Mais ouais, c'est vraiment super.
Et sur cette magnifique recommandation, nous arrivons à la fin de l'épisode 72. Avant de se quitter et de vous laisser aller planter vos semis de tomates cerises, eh bien, voici l'heure des remerciements. À la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueuses, Marion, François, Ariane, Simon, Aurélie. Et promis, c'est le dernier épisode sans Vlad. Il revient le mois prochain.
Et merci à toi, Bénédicte.
Mais écoute, ça me touche beaucoup.
Mais il ne faut pas l'oublier.
D'ailleurs, je précise que Vlad sera bien sûr de la partie à Eumet.
Est-ce qu'il chantera à son retour?
Ce n'est pas impossible. Et je vais dire merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, YouTube, on est partout. Et merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur Ghost Ship d'Ed Harcourt. Et on vous dit à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
Salut.
Tchou.
Bispalt.
Et on va parler ou chanter?
Ah oui, on va faire Widerzen, sûr.
Ah oui, Widerzen.
Ils ont rien, on est deux à faire.
Non, mais oui, mais j'étais pas prête.
Widerzen.